Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que pour montrer votre soutien au podcast, il vous suffit de vous y abonner via votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles et rejoindre Slice sur ses pages LinkedIn et Facebook. Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important, c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échec, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie, tout simplement. Bonne écoute. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur Slice en compagnie de Richard Forest, le patron de la société Sierre. Comme vous l'entendrez tout au long de cet épisode, Richard est un touche-à-tout, passionné d'innovation, qui ne ménage pas ses efforts pour vivre ses rêves de gosse. En attendant de pouvoir voyager dans les étoiles, Richard, lui, il fait voler des bateaux à moteur depuis 2016 avec Sierre. Sa devise, confort, écologie et performance, s'adapte à toutes les utilisations, que ce soit sur le marché du luxe ou appliquée à la défense et aux besoins exigeants des forces spécial d'ici et peut-être un jour d'ailleurs. Je laisse maintenant Richard vous raconter son histoire d'entrepreneur sans filtre et avec une bonne humeur communicative. Bonne écoute. Bonjour Richard.
Bonjour Marjolaine.
Merci beaucoup de me recevoir à Vannes, chez Polydesk, un très joli espace de coworking. Je suis ravie de t'accueillir sur Slice pour parler de ton parcours, pour parler de Sierre. Et j'ai une question traditionnelle, on en a parlé. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit?
J'adore la question. c'est d'actualité avec Thomas Pesquet, hein, je rêvais d'aller dans les étoiles.
Voilà. Ah ouais,
ouais, je suis un grand fanat de tout ce qui est aviation, aéronautique. Et bon, je suis quand même né en 69, hein, donc je suis un peu vieux maintenant, 52 ans. Et ouais, donc à l'époque, en fait, je rêvais d'être astronaute. Et pour être astronaute, il fallait être pilote de chasse. Et donc, j'ai toujours adoré les avions. Quand j'étais gamin, bon, j'embêtais mes parents, j'allais faire tous les meetings. J'adorais ça, quoi. Et puis, du coup, je voulais faire des études aéronautiques. Et bien sûr, je les ai pas faites.
T'es perdu en route.
Et ouais, je rêvais vraiment d'être astronaute. Je me souviens quand j'étais gosse. Donc aujourd'hui, tous les tirs spatiaux, on les suit maintenant en direct sur YouTube et tout ça. C'est juste génial.
C'est ouf, hein.
J'ai des souvenirs, j'étais gamin. la nuit, on avait les Walkman à l'époque avec la radio. J'écoutais les lancements de la navette, tout ça, à 2-3 heures du matin. J'adorais ça. Hein. Et j'ai gardé les coupures de journaux des années... J'ai fait de la spéléologie, entre guillemets, dans le grenier de mes grands-parents. J'ai retrouvé des trucs sur... on a marché sur la Lune, tout ça. Ouais, extraordinaire. Quoi. Grand fanat de tout ce qui vole. Et voilà, comme je dis souvent à ma femme, s'il y a un seul truc où je ne me poserai jamais la question, si on me proposait de faire un tour dans l'espace, je dirais tout de suite oui, mais immédiatement.
Ah bah j'en parlais hier parce que on est au cœur de l'actualité. Thomas Pesquet a décollé il y a 3-4 jours.
Ouais,
voilà, et j'en parlais hier avec ma mère et je dis mais moi ça m'attire, je trouve ça fascinant. Mais alors vraiment, la trouille quoi, juste
c'est
tellement impressionnant. Enfin, j'aurais peur de ne pas pouvoir retourner à la maison. Quoi.
Non mais je pense qu'il y a deux choses. D'abord, bon, je suis un tempérament aventurier, donc je pense que c'est la seule aventure folle qui existe encore. Je pense que ça c'est juste extraordinaire. Et puis, prendre du recul philosophiquement sur on est des tout-petits dans cet univers, quand on regarde la planète, déjà c'est magnifique.
Ouais.
Et puis, je pense qu'en termes de philosophie, il y a une vraie remise en question de ce qu'on est sur Terre. Quoi.
Ouais. En attendant, on a le droit à des belles photos de Thomas Pesquet. La Normandie et Paris, là, qui sont sortis il n'y a pas longtemps. En plus, ils documentent tout ce qui s'est passé dans la navette quand ils sont partis.
Ouais. Donc, et pour la petite anecdote, vu que je suis vraiment un fanat de tout ce qui vole, donc bon, j'ai passé mon brevet de pilote quand j'étais jeune.
Ah ouais.
Et pour mes 50 ans, je me paye un vol en avion de chasse.
Ah, on peut faire ça?
Ouais, on peut faire ça. Et en plus, on va refaire un lien avec Sierre. Je trouve ça super joli aussi parce que je fais pas ça avec une smartbox, mais je fais ça avec un vieil avion qui était embarqué en aéronaval sur les porte-avions français. Donc, on connaît le Fougas Magister dans la Patrouille de France. Ouais. Et bah, donc, c'est sa version marine. Donc, il y a un lien avec Sierre, parce que finalement, je vais voler sur un bateau qui était à l'aéronaval. Donc, ça, c'est sûr. Et le, mon vol est dans 2 semaines.
Ah ouais, et là, Zéphir, t'es juste excité.
Je suis trop content.
Vite, vite les 50 ans.
C'est ça. Bon, alors, je les ai déjà eus, mais à cause du Covid, bon, le vol a été repoussé.
Ouais, ouais.
Mais voilà.
D'accord, oh bah, j'espère que tu vas vivre un super moment. Enfin, je n'en doute pas, à mon avis, les sensations seront là. Donc, du coup, tu veux devenir pilote de chasse, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Pourquoi t'as pas. Donc, t'es à Lyon, toi. Toi, t'es lyonnais,
moi, je suis lyonnais. Ouais. Entre temps, problème de vue. Rapidement des lunettes. Et à l'époque, c'était rédhibitoire. Après, est-ce que j'avais aussi les capacités à faire des grandes écoles militaires pour devenir pilote de chasse, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que l'histoire des lunettes, ça m'a vraiment brisé le truc. Et puis voilà, mais bon, après une passion, on peut toujours la vivre différemment.
Oui,
et donc du coup j'ai bifurqué, j'ai fait un bac E à l'époque.
Alors je ne sais absolument pas à quoi
donc,
ça correspond.
C'était les bacs C maths, mais en plus il y avait tout ce qui était dessin industriel, mécanique, d'accord, robotique. Donc en fait ça fait vraiment vieux de dire ça, mais bon. Dans les années 85, j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de techniques. Et donc, j'ai toujours eu ce côté hyper curieux. Mon père, on démontait des moteurs de voiture dans le garage. Voilà, j'adorais ça, j'adorais les techniques. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a toujours drivé tout au long de ma carrière pro. C'est la passion du tout ce qui est compliqué. J'adore comprendre.
Les mécanismes, la structure,
ouais, tout,
des choses.
Tout. C'est pour ça que je suis un grand, grand fan d'innovation, en fait. Hein. Je regarde tout ce qui se fait tout le temps. Donc, voilà. Et donc ça, du coup, ça, j'ai même redoublé. En fait, j'ai demandé à redoubler ma première parce que je n'étais pas pris dans le bon bac, en fait, parce que c'était,
d'accord,
un bac assez élitiste à l'époque.
Ah, c'était pas à partir de la première
mais j'étais pas pris pour aller dans ce bac-là, parce que j'étais dans une école, un lycée assez sélectif.
D'accord.
À Lyon.
Ouais.
Ah, aux Lézaristes. Et du coup, j'ai même demandé à redoubler pour pouvoir faire
s'il
ce bac-là.
S'il vous plaît, je vais m'améliorer, vous me prendrez dans un an.
Voilà, et donc ensuite bac E, et ensuite je monte à Paris pour mes études, où comme tout bon provincial, je dis que ouais, je ferai que mes études et que je redescends tout de suite en Provence. Et c'est vrai que j'y suis resté que 25 ans.
Et tu rentres dans quelle école à Paris ?
Donc je fais EFRAE, une école avec prépa intégrée, électronique informatique. Et donc moi je choisis l'informatique, mais très très vite mon tempérament a pris le dessus puisque j'ai pas fait que ça.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai très vite, j'étais déjà un peu financier dans l'âme, hein. Je suis allé voir les banques pour faire des emprunts étudiants parce que ça coûtait pas cher.
Oui.
En termes de rendement, je gagnais de l'argent en plaçant le prêt que j'avais fait sur des emprunts épargnants.
D'accord.
Voilà, donc en fait, je le savais pas, mais j'étais déjà un peu financier. Et puis, je crée une compète ski, surf, monoski qui est devenue une compète nationale. Donc,
attends, tu vas trop vite là.
En parallèle de mes études d'ingénieur.
T'es à Paris, donc comment tu crées une compète ? Donc là, t'es en plein milieu de tes études.
Ouais.
Comment tu crées une compète ski, monoski
Parce qu'avec 2-3 mecs un peu fous, tu te dis que y a un truc super sympa à faire, parce que moi j'adore skier évidemment.
Oui.
Vu que je suis né sur des skis aux alentours de Lyon, j'y allais tous les week-ends.
D'accord.
Et donc, ouais, on a créé une compète nationale ski, surf, monoski. Ça s'appelait les trois glisses à l'époque.
Les trois glisses, d'accord. Ok.
Et tout de suite, gros succès. Donc, c'est là où j'ai commencé à chercher de l'argent en fait, hein, chercher des sponsors. Commencer à faire du réseautage avec des maires, des députés pour organiser le truc. Voilà, j'étais à l'école.
Ok. Et en même temps, tu gérais cette compétition
Ouais, on trouvait des sponsors et puis bah, ça a super bien marché. Ça a duré vachement longtemps et depuis, je crois que c'est redevenu. Ça a été repris dans le giron de la fédération de ski et puis c'est devenu une compète. Après, je ne sais plus ce qu'on est devenu, mais ouais, j'ai fait ça.
Ok. C'est
à côté
original.
De ça, je participais à l'épreuve par 4 aussi, qui était une assoce. De catamaran, de course à Carnac.
Le ski et, et la mer.
Alors le ski, j'étais le fondateur président du club. Et là, l'épreuve par 4, j'étais juste membre bénévole pour la course.
D'accord. À Carnac, donc.
À Carnac, ouais. Donc là, voilà, les premiers liens
les
sont
premiers
là.
Les premiers liens avec la Bretagne.
Ouais. Et puis, qu'est-ce que je faisais en parallèle aussi Ah ouais, en parallèle, je m'étais trouvé un super job passionnant.
Ouais.
Je travaillais à la SAT, ça s'appelait, donc qui a été rachetée par Sagem.
D'accord.
Et on faisait de l'optronique et donc là je vais reboucler avec les forces spéciales d'aujourd'hui finalement,
oui,
puisque j'ai travaillé sur le Rafale, l'avion de combat. Donc là, j'étais super content. Moi,
ah, bah, l'avion,
un
voilà.
Passionné, ouais. Un passionné d'aéronautique. Et ouais, j'ai travaillé sur le détecteur de départ de missiles qui est sur l'empennage du Rafale. Et à la SAT. Et donc, en parallèle de mes études, j'avais un petit CDD. Voilà.
Comment t'as trouvé ce boulot
Tout seul.
Tout seul. T'as cherché, t'as postulé et, ouais. Et ils t'ont pris.
Ouais. J'ai un super souvenir. J'espère qu'il n'y a pas trop d'étudiants qui vont écouter. Mais bon. J'ai un super souvenir quand je cherchais du boulot. Je crois que c'était chez IBM Global Service. Je rencontre un gars, tout ça, on entretient. Puis il me demande mon parcours et puis il me dit « Ma tête vous dit rien ?» Je dis « Bah non, je suis pas très physionomiste, je suis désolé. » Il me dit « Bah je suis votre prof de génie logiciel.
Ah, bon, oh, est-ce que tu es allé en cours ?»
Et, ben, voilà. Et donc je lui dis « Écoutez, je suis quand même un mec hyper dynamique, donc ça devait être sûrement, je travaillais à mi-temps en CDD, et je vous devais être dans la mauvaise demi-journée, je m'en excuse, mais j'ai tous vos polis, hein, je vous garantis. Et j'ai été pris.
Ah, comme quoi.
Donc voilà, une vie étudiante.
Bien remplie.
Ce qui est génial à Paris, c'est qu'on fait la fête et puis en même temps, bah, on a une chance inouïe de pouvoir quand même beaucoup bosser. Quoi.
Ouais, ouais.
Et bon, je suis un gros travailleur, donc j'y arrivais, ouais.
Ouais. Et donc tu fais tes études, ça dure combien de temps? C'est sur 4
5 ans.
5 ans, ouais.
Plus 5, voilà. Et puis donc là, en sortant des frais, donc je suis diplômé 93. Et donc à l'époque, le service militaire était obligatoire.
C'est vrai. Oui.
Et même chose, je voulais pas trop. Enfin, je voulais vraiment valoriser ce temps-là. Et j'ai mené une vraie recherche d'emploi, comme si je cherchais un job, en fait, pour trouver un scientifique du contingent.
D'accord.
Donc, alors de mémoire, c'était 12 mois, je crois.
D'accord. Ouais.
Et j'ai trouvé un super boulot à l'aérospatial à Châtillon. Donc là, on était au département central inertiel. À nouveau un lien avec CIR, puisque finalement, ouais. Avec CIR, on a des centrales inertielles pour gérer la stabilité des bateaux. Et donc, nous, on travaillait sur les centrales inertielles des sous-marins nucléaires, des missiles ASMP. J'ai eu le premier missile Apache dans les mains qui a fait son premier vol, en fait, quand il s'est crashé. Donc, c'était un vol de test.
D'essai, ouais.
Un vol d'essai. Et quand il s'est crashé, on a récupéré la centrale inertielle pour voir comment elle s'est comportée, etc. Donc, quand on est jeune diplômé, c'est juste passionnant, ces univers. Hein. C'est, bon, j'ai adoré
c'est
ça.
Une chance.
C'est une chance inouïe. Du coup, je faisais vraiment la boucle avec ma passion pour tout ce qui volait, quoi. Donc, un an d'un boulot vraiment extraordinaire.
Et puis, il faut partir à un moment donné.
Et puis ouais.
Est-ce que t'étais un peu déçu ou est-ce
que
t'as
songé? Ah non, j'ai adoré ça. Mais
déçu de partir, je veux dire.
Ouais, déçu de partir, mais il n'y avait pas de boulot.
Parce
qu'on était en pleine crise. C'est okay. Vraiment une crise très très compliquée pour les ingénieurs à l'époque. L'aéronautique est très cyclique. Mm. Hein, c'est des programmes très très longs. Et non, malheureusement, il n'y avait pas de job. Alors que mon patron de labo, enfin, c'était super bien entendu. Il faisait de la voile aussi. Enfin, bon, bref. Mm. C'était super bien entendu.
Plein d'atomes crochus.
Plein d'atomes crochus. Et on a gardé contact très très longtemps, hein, des dizaines d'années. Et donc, j'ai fait une recherche d'emploi, même chose, un peu, un peu pushy, et j'avais le choix entre plusieurs jobs, et j'ai choisi celui qui me paraissait le mieux. J'étais pris au centre de recherche d'Alcatel.
Okay.
Donc là, à nouveau, ma passion d'innovation était complètement assouvie.
T'as quand même un peu de chance, non? Il y a un peu de chance là-dedans
Alors, je pense que la chance, ça se provoque, parce ouais. Que si tu restes au fond de ton lit, t'as pas de chance.
Ouais.
Hein, si tu te bouges On pas les fesses, t'as pas de chance. Donc la chance, je pense que ça fait plus que se provoquer, rencontrer des gens importants, c'est pas que t'as de la chance, c'est que t'as activé ton réseau et tu t'es bougé pour le faire. Voilà. Et tout ça, c'est beaucoup d'énergie en fait. Hein. Et donc ouais, je bosse au centre de recherche d'Alcatel et alors, là, c'est génial quoi, t'es un jeune diplômé, t'as encore le lait qui coule du nez hein, quasiment. Et donc à l'époque France Télécom avait donc j'étais en informatique hein, j'étais diplômé d'informatique, France Télécom avait des énormes moyens et avait lancé, donc France Télécom était en retard sur des outils de supervision de télécom.
D'accord.
Et avait lancé deux énormes crash projects, un en Belgique je crois et donc un au centre de recherche Alcatel, et c'était deux équipes de 50 personnes, c'était énorme. On avait un an et demi pour mettre au point des démonstrateurs d'outils de supervision de nouvelle génération. Et en fait, les gens aujourd'hui parlent d'objets connectés, on en faisait déjà à l'époque.
Alors là, Alcatel...
Donc là, Alcatel, on doit être en 95, je dirais, je
ouais,
pense.
Ouais, 94, 96.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais.
Et donc là, boulot, mais extraordinaire, quoi. C'est, tu travailles avec les plus grands spécialistes. Moi, j'étais le plus jeune hein, du truc.
Et t'apprends, tu prends.
Ouais,
le...
c'est ça, tu pompes. Donc je faisais que de l'informatique, hein, je faisais que du codage. Mais par contre, on travaillait déjà, nos travaux contribuaient déjà avec, ça s'appelait l'OMG à l'époque, l'Organisation Mondiale de je ne sais plus quoi. Donc c'était les normes des objets connectés, mais au sens informatique. Et voilà, c'est passionnant. Quoi.
Dans les années 90,
ouais. Ouais, ouais. Mais là, il y a un truc qui tout de suite m'a vraiment déplu.
Ça commence.
C'est que bah, mon tempérament se révélait d'entrepreneur. Et donc, c'est au moment où je crée la boîte de ma femme, d'ailleurs. Donc, j'avais un boulot le jour et un boulot la nuit.
En même temps, vu comment était ta vie étudiante, tu ne pouvais pas rester juste sur un truc à faire dans la journée. Il fallait meubler, on va dire.
C'est ça. Il fallait occuper mes nuits. Et Alcatel, en fait, c'était trop gros pour moi. Hein. Le groupe Alcatel, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas, c'était peut-être 50 ou 100 000 personnes.
Ouais.
Groupe énorme.
Ah oui, c'est... Oui.
C'était tentaculaire avant que ce grand groupe soit complètement disséqué par les politique, mais ça c'est un autre débat. Et donc ouais, c'est vrai que cette grande inertie de remplir un formulaire en 4 exemplaires pour commander une gomme et avoir ta gomme 3 mois après, bon je caricature, mais c'est un peu ça.
C'est un peu l'idée.
Et donc du coup le projet se termine, en plus c'est notre projet qui est retenu, donc c'était génial.
Ah bah là oui.
Mais bon, ça m'allait pas et j'ai cherché une toute petite boîte, donc là je me souviens encore, j'étais quand même un peu audacieux à l'époque. Limite arrogant, je trouve, avec le recul, c'est que pendant l'entretien, je me souviens que je dis au patron de l'époque, aujourd'hui vous êtes 6, je veux bien être le 7e parce que quand vous serez 150, je serai toujours à côté de vous. Et donc j'ai été pris, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que. Donc là, j'ai commencé mon appétence à avoir du contact, à aimer parler, à aimer écouter les gens, résoudre des problèmes compliqués. Ça m'a amené à l'avant-vente. Donc j'ai commencé à devenir ingénieur avant-vente dans cette toute petite société.
Qui s'appelait comment ?
Pacte Innovation, qui existe toujours.
Pacte Innovation, ouais.
Et j'étais. Enfin, c'était génial, quoi, parce qu'on vendait des trucs hyper compliqués. Et ma plus belle vente, j'en suis super fier, c'est que j'ai réussi.
Encore maintenant, après tout ce que tu as fait par la suite.
Ouais, je suis super fier d'avoir fait cette vente. C'était un outil de démantèlement en 3D d'équipement nucléaire.
Alors, démantèlement en 3D, d'accord.
D'équipement nucléaire, donc les centrales nucléaires ont besoin de démanteler des équipements.
Oui.
Et donc, il faut manipuler ça dans des. On voit les bocals avec les gants, là. Ouais. Enfin, aujourd'hui, avec le Covid, on voit bien ce que
c'est. Oui, on connaît,
voilà.
On visualise.
Et donc l'idée, c'est qu'il fallait faire des outils en 3 dimensions pour essayer de simuler les démantèlements dans le nucléaire.
D'accord.
Et donc c'est un produit hyper compliqué. Donc c'est une boîte qui faisait du réseau de neurones, intelligence artificielle, ce genre de trucs, quoi.
Ah oui, c'était dans les années 2000, ouais.
Donc là, on doit être en 98, je dirais, peut-être. Ouais. Et voilà, et je gagne, on n'était plus que deux compétiteurs, et ben j'étais content d'avoir gagné contre Dassault Systèmes, hein, quand même.
Ah oui,
c'est
félicitations.
Donc bref, chez Pacte Innovation, je fais un donc on monte et on monte la boîte à un peu plus de 100 personnes, à deux, avec mon Dirco.
T'avais des parts dans cette société ou non?
Non, alors je m'occupais notamment du Grand Ouest, parce que j'avais dit que j'adorais l'Atlantique comme zone géographique. Et donc j'avais en charge, on avait EDF à Nantes qui s'occupait des fonds de pension, non des retraites pardon, c'est vieux ça, des retraites pour les gens d'EDF. Et donc on avait mis en place un réseau de neurones pour, je ne sais plus quel était le principe, mais c'était d'optimiser justement les calculs, voilà, et donc c'était du réseau de neurones d'intelligence artificielle.
D'accord.
Passionnant. Et un jour je viens chez mon boss et je lui dis, écoute, j'étais membre du comité de direction, puis je lui dis, écoute, voilà, j'ai réfléchi, j'ai discuté avec ma femme, pas de souci pour faire du part-time en Bretagne, je veux monter l'agence, j'ai fait le business plan, je lui tourne le PC, j'ai monté le business plan.
T'avais tout préparé pour
et
que...
Je lui dis, par contre, je veux prendre des parts dans la filiale. Quand on se dit, ah non, on fera jamais, et puis elle m'a un peu énervé quand quelques mois après, il embauche quelqu'un pour faire ça, j'ai pas trop apprécié.
Ok.
Et puis voilà, donc la grosse déception. Et puis moi qui suis un fan d'aviation, on travaillait pour les salles des marchés. J'avais bossé.
D'accord,
pour
les salles des marchés.
Crédit Agricole, Société Générale, tout ça. Et puis dans les salles des marchés, donc on fait du développement informatique pour du trading temps réel pour les traders. Et ils nous disaient, ouais, on fait du temps réel. Et je disais, mais non, c'est dans les avions de combat qu'on fait du temps réel. Le bus informatique, le réseau par exemple du Rafale ou des avions de combat, ça pédale. Je dis, là, c'est du temps réel. Et on en parle à mon ancien boss, on lui dit, ouais, il faudrait amener la technologie du temps réel informatique embarquée aéronautique dans les salles des marchés, parce que ils sont aux millisecondes, alors que dans les avions, c'est à la nanoseconde. Et non, bon, ok. Et puis au bout d'un moment, bah voilà, déception de l'histoire de Nantes, ça aussi, on n'était pas trop écouté à notre board.
Vous étiez plus peut-être sur la même longueur d'onde, du coup.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, questionnement métaphysique. Et donc là, du coup, on part avec Pierre et on crée Anéo.
Oui.
Cabinet de conseil. Donc, on doit le créer, je crois, en 2000. Ouais, je crois que c'est en 2000. on crée un Neo et donc cabinet de conseil, et donc même chose, toujours orienté high-tech, innovation, et donc notre fameuse idée de temps réel embarqué dans les avions qu'on pourrait transposer en salle de marché. Au bout d'un an, on réussit à négocier une exclusivité monde avec la Société Générale, où on leur mettait au point un système qui permettait d'analyser le temps, en temps réel, les ordres de bourse qui sont passés au sein de la banque pour faire deux choses. Quand le marché boursier est à tône, et ben essayer d'en profiter pour passer plus de trades que les autres. Et inversement, quand le marché s'emballe, lever le pied et dire stop, arrêtons de faire du trading automatique. Parce que c'est des gens qui font des millions de trades à la seconde. Et donc, gagner 0,01 centime fois des millions, ça fait vite.
Ça fait
des millions,
beaucoup,
fois des millions. Donc, je pense qu'on a juste fait notre plus mauvaise négociation commerciale de notre vie, parce que je pense que si on avait indicé l'argent qu'on leur a fait gagner, aujourd'hui, j'aurais pas besoin de chercher des investisseurs, j'aurais les millions moi-même. Mais c'est pas grave, c'est une super expérience. Donc voilà, on crée Aneo, et puis voilà, je suis numéro 2, je suis pas numéro 1.
D'accord.
Et
pendant ce temps, tu en as parlé, la boîte de ta femme, Passion des Jardins, c'est ça ?
C'est ça.
Continue, parce que tu as dit que tu l'as montée, donc pendant tes nuits, quand tu étais, parce que tu cours trop vite, pendant que tu étais chez Alcatel, et du coup, cette boîte, cette société...
Ma femme avait de l'or dans les mains, parce qu'elle a un énorme respect du client, ce qui est dans le service, je pense, une des valeurs essentielles, et une amoureuse de son métier de paysagiste.
Ouais.
Et elle s'était fait recruter par une patronne qui était très centrée fleurs et pas du tout jardin. Le jardin rapportant moins de marge, ça n'intéressait pas trop. Et au bout d'un an, elle bossait au Bristol, au Palace.
Ah oui.
Le Bristol. Sympa. Et au bout d'un an, je lui dis, mais arrête de bosser pour les autres, parce qu'elle s'en moque. Elle fait ça pour compléter son truc, mais fais-le toi-même. Et du coup, on a monté la boîte comme ça. Et Passion des Jardins est devenu le leader parisien des palaces en termes de jardins et déco de Noël, puisqu'elle avait le Bristol, le Plaza Athénée. Elle a eu le contrat du Crillon, mais c'était juste la semaine avant la mort de Lady Diana.
D'accord.
Donc Dodi Al-Fayed a arrêté le contrat tout de suite. Mais sinon, elle aurait eu le Crillon aussi. Mmh. Elle avait le Shangri-La.
Ah oui.
Elle a été élue le plus beau Shangri-La du monde en termes de décoration de Noël. Donc voilà, elle avait de l'or dans les mains. Et donc du coup, elle avait sa petite boîte et donc moi je la gérais. Donc au début, je faisais les devis la nuit, elle se levait à 3h du mat, moi je devais me coucher à 2h.
On se croisait, c'était vraiment sympa.
et voilà, et donc en parallèle, donc, ouais, je faisais ça, donc toujours en transparence avec mes employeurs, hein, évidemment, parce que je suis quelqu'un de hyper transparent. Et d'ailleurs, ça me joue des tours, ça, des fois, parce que je suis un peu spontané et des fois un peu cash. Donc, des fois, en termes de management, ça me cause des petits soucis, mais bon, c'est, je suis comme ça. Et donc, ouais, chez Aneo, on fait ça. Et puis, en 2000, combien ? Donc, là, on doit être en 2012, ouais. Donc, je m'ennuie vraiment beaucoup. Projet de vie de famille avec mon épouse de revenir en Bretagne parce qu'on adore la région.
Mm-hmm.
Et donc chaque année, on loue dans différents endroits pour voir où est-ce qu'on atterrirait avec les enfants. Et un jour, on loue à l'île aux Moines, faire découvrir la voile aux enfants. Et là, je prends des dépliants au syndicat de tourisme. Et je tombe sur trois dépliants. Il y en a un marqué Anne Cazeneuve, Route du Rhum. Oh, je dis à Dany, je lui dis, attends,
faire ça, quoi. C'est mythique.
Une femme skipper, c'est un métier de mec. Donc une femme skipper, c'est génial. Donc moi, je suis très attaché. Je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes dans les entreprises, tant dans les comités de direction que même à la direction générale. Donc je suis très très sensible à ça, et vu mon épouse notamment. Et donc je lui dis, bah voilà, on la contacte. Donc on contacte Anne, on fait nos sorties, tout ça. Et puis elle m'explique son parcours Route du Rhum. Donc je lui dis, écoute, j'ai une grosse boîte à Neo, mais je ne suis pas le patron, je suis que le numéro 2. Donc je ne sais pas si je peux te sponsoriser pour la Route du Rhum.
T'étais actionnaire minoritaire.
Oui, mais j'étais actionnaire minoritaire. Et puis j'étais le directeur général, mais pas le PDG.
D'accord,
quoi. Et donc je ne pouvais pas prendre une décision à la place des autres. Je lui dis, par contre, avec la petite boîte de ma femme, avec Passion des Jardins, c'est sûr, on fera un geste, ton histoire est passionnante, et puis y a des valeurs qui me font écho.
Qui me touchent,
qui me touchent. Et voilà, et puis je lui dis, tu sais, je lance un chiffre au hasard, hein. Je lui dis, tu sais, si j'arrive à sortir quelque chose d'un Neo, ça sera peut-être 50 000 euros, mais pas plus, quoi.
C'est déjà une somme, bon comme
mais
tu
pour
me
une
disais,
route
pour
de
la
Rome,
route du Rhum, c'est pas
plutôt,
beaucoup.
Il faut plutôt 200 000, hein, généralement, pour avoir un bateau gagnant dans sa catégorie. Bon, bref. Puis au mois de novembre, un jour, coup de fil, Anne m'appelle, dit « Ouais, je fais une sortie avec mes sponsors », et là, elle me donne son dossier, 50 000 euros. Je dis « Ouais, c'est pas possible. »
C'était fait sur mesure pour ça.
donc, finalement, j'arrive à convaincre Aneo et on sponsorise le bateau. Et Anne gagne dans sa catégorie Route du Rhum, catégorie Rhum, en 2014.
Ouais.
Alors, l'histoire est juste phénoménale, parce que du coup, comme c'était une femme, c'était l'année de ses 50 ans, c'était la... elle a fait plus de routes du Rhum que... C'est la seule femme à avoir fait autant de routes du Rhum, en fait.
D'accord.
Personne ne sait, même Florence Artaud n'a pas fait autant. Et elle a 50 ans et elle gagne. Et en plus, il y avait une histoire dramatique que peu de gens ont su, c'est qu'elle a eu un cancer 4 mois avant, elle a eu la chimio opérée, le chirurgien lui avait dit Anne, si vous arrivez à faire du jogging au mois de novembre, vous serez contente. Bah non.
Elle était
sur son bateau en trimaran, en solo, à faire la route du Rhum, un truc fou, un tempérament comme j'ai rarement connu. Et elle est morte un an jour pour jour après sa victoire, un an après. C'est une histoire humaine donc assez poignante. Même chaque fois que j'en reparle, même des années après, ça me fait toujours des frissons.
Ouais.
Et donc, du coup, plein de skippers m'appellent, appellent Anéo en disant, attends, une boîte qui a sponsorisé un bateau gagnant, il doit avoir des millions de dollars à mettre.
Ils ont mis 50 millions.
Et en fait, on n'avait mis que 50 000. Et donc, un jour, un type m'appelle, donc c'est Bertrand, et il cherchait 1,5 million.
Bertrand comment ?
Castelnérac, donc avec qui on a créé CIR. Et il m'appelle à l'époque et il cherchait 1,5 million pour faire voler des bateaux. Donc, j'avais pas 1,5 million, mais voilà mon goût de l'innovation. Et là, la deuxième partie de la phrase, faire voler des bateaux, là, tout de suite, je dis, ouais, il faut qu'on se rencontre.
Allez, comment on fait ? On y va.
Voilà, et on se rencontre à la Trinité, au Spi West France, donc on doit être en 2015. Et là, je lui dis, bon, écoute, c'est pas un problème d'argent, hein, c'est un problème technique ton truc, parce que le foil c'est centenaire, donc voilà, c'est plus un problème
c'est une technologie
techno
qu'on connaît.
Voilà, c'est juste qu'il faut l'avoir différemment. Et puis moi je suis entrepreneur, donc la voile c'est bien, mais quand tu regardes dans un port, là où il y a le plus de volume, c'est le bateau à moteur. Donc moi ton histoire elle m'intéresse, si on la prend sous un angle technique et pas chercher du sponsor, et puis si on la prend sous un angle business, donc là où il y aura du marché, ce sera le bateau à moteur. Voilà.
Okay.
Et CIRN est comme ça.
D'accord. T'es toujours chez Anéo.
Je suis toujours chez Anéo et en fait c'est grâce.
Chez Passion des Jardins.
Voilà.
Et là.
Et alors non, Passion des Jardins, on venait de vendre. J'avais enfin réussi à convaincre ma femme pour le projet de vie en Bretagne. J'avais réussi à convaincre de vendre la boîte. Donc on venait de vendre la boîte. Et donc on avait plutôt un projet 2018-2020 en fait, hein, la Bretagne. Et ben finalement ça s'est fait en 2016.
D'accord. On prend les enfants. Je sais pas, t'as combien d'enfants ?
On a trois enfants.
Les enfants sous le bras et hop, on y va.
Donc moi je débute plutôt pour faire coïncider avec la rentrée scolaire de septembre pour les enfants. Et donc moi je débute plutôt avec plein d'allers-retours pendant 6 mois. Mais voilà quoi. Donc ça débute en 2016 hier.
D'accord. Et ta femme, elle a d'autres projets ? Elle a lancé d'autres projets
Non, malheureusement, c'est à mon grand âme parce qu'elle a de l'or dans les mains et surtout qu'ici, on a la chance d'être dans un environnement où il y a des magnifiques propriétés et des gens qui ont beaucoup d'argent. Et voilà, elle pourrait refaire son métier de gestionnaire de jardin pour des grands fortunés, mais non, elle a décidé que non. Donc moi, je respecte ça, évidemment. Mais bon, l'entrepreneur que je suis...
bouillonne.
Voilà, c'est ça. Non, mais elle s'éclate dans ce qu'elle fait. Et ouais, c'est...
D'accord. Okay.
La vie ici est juste extraordinairement géniale, quoi. Ouais. On est au bord du golfe du Morbihan.
Oui, j'ai visité un petit peu hier. J'en ai eu plein les yeux. C'était
c'est magnifique.
C'est tellement beau. Bon, bref. Ouais. Donc, CIR, vous voyez à la Trinité. Donc, pas très loin d'ici.
Pas très loin d'ici. Et en fait, donc l'écosystème, la Sailing Valley, comme on dit ici, est quand même beaucoup à Lorient.
Oui.
Où il y a beaucoup de gens super compétents en foil, tant depuis l'architecte jusqu'au chantier naval, la fabrication, etc. Et puis Lorient est hyper dynamique sur tout ce qui est innovation au niveau des foils. Donc du coup, on crée la boîte et on l'installe à Lorient. Donc moi par contre, comme je savais que je ferais beaucoup d'allers-retours à Paris et que quand même madame avait quand même une petite préférence pour le golfe du Morbihan, donc nous en fait on s'installe à Arradon et donc je fais l'aller-retour, bon pas tous les jours parce que quand on est chef d'entreprise on a beaucoup de rendez-vous un peu partout, mais en moyenne je suis au moins 3 fois par semaine à Lorient, mais voilà.
Donc, d'accord.
Puis le reste, par exemple ici chez Polydesk, souvent je m'isole pour pour faire du télétravail ou être au calme. Et puis voilà, puis après tous mes investisseurs, je les rencontre à Paris, ailleurs. Avant le Covid, j'étais beaucoup dans les avions, voyager un peu partout. Voilà.
Et donc ça commence comment ? Donc vous prenez la décision à la Trinité de faire quelque chose, de développer la fonction vol, parce que tu parles pas de développer du vol, tu parles toujours de développer fonction vol.
J'ai une vision très différente. Il y a un point important, c'est que les gens ne voient le foil que dans la voile.
Hein. Ouais.
Et je lutte contre ça parce que un voilier est par naissance un objet lent, entre guillemets, puisqu'il ne va pas très vite, comme il est mu que par éole, uniquement. Et en plus, quand le vent pousse le bateau, forcément, il y a de la gîte, donc ce n'est pas une navigation, entre guillemets, horizontale. Hein, il y a de la gîte, voilà.
Ça bouge.
Alors que sur un bateau à moteur, on a déjà toute la vitesse qu'on veut parce qu'on a les moteurs à l'arrière. Mmh. Et en plus, on a une chance avec les moteurs, c'est que c'est une propulsion homogène et horizontale. Donc le foil avec la voile et le moteur ne sont pas comparables.
Pas du tout.
C'est-à-dire que le foil à la voile va chercher à accélérer un bateau.
D'accord, ouais.
Et donc c'est pour ça qu'un, parce qu'un voilier, quand il fait 20, 22 nœuds, on est content. 8, 10 mètres, ils ne vont même jamais à ces vitesses-là. Hein. Mm-hmm. Donc le foil est vraiment utilisé pour accélérer le bateau. Quand on est sur des IMOCA, là on va aller tutoyer le 40, des fois 50 nœuds, ou l'America Cup. Mais voilà, c'est des bateaux qui sont hyper profilés et le foil est vraiment fait pour atteindre ces hautes vitesses.
D'accord.
Un bateau à moteur, on peut aller à 50 nœuds sans foil. Donc le sujet du foil pour le bateau à moteur, c'est gagner un état de mer en élevant le bateau. Mmh. Et en plus, comme on élève le bateau, on fait de l'économie de carburant. Donc globalement, le foil pour le bateau à moteur, c'est trois choses. C'est le confort, le confort, le confort. L'écologie, l'écologie, l'écologie. Et quand même, on est plus performant parce que comme on pousse plus d'eau, comme on a élevé la carène, on pousse plus ces mètres cubes d'eau de façon totalement inutile. Et donc, du coup, on va plus vite en moyenne. Donc en fait, on est plus confortable, on est beaucoup plus écolo. Et on va plus vite en moyenne. En top speed, on ne va pas améliorer la top speed. Moi, dans mon discours marketing, jamais je cherchais à améliorer
la top speed. Pour les gens...
La vitesse de pointe. Okay,
d'accord.
Moi, jamais cherché à améliorer la vitesse de pointe, quoique on commence vraiment à nous le demander, notamment pour les militaires.
Ouais.
Mais voilà, donc nous, ce qu'on va chercher à travailler, c'est ces trois atouts, ces trois apports de valeur qui se combinent. C'est ça qui est extraordinaire avec le foil en bateau à moteur, c'est qu'on va plus vite, on consomme moins et c'est plus confortable.
Voilà. Que demande le peuple?
À part le prix, il n'y a pas grand inconvénient. Donc pour revenir à la question initiale, c'est pour ça que je ne parle jamais de foil en fait. Parce que le foil, c'est jamais qu'une pièce.
Oui.
Que n'importe quel chantier est capable de fabriquer. Aujourd'hui, je ne fabrique pas les foils, hein, on les fait faire.
D'accord.
Et c'est même pire que ça, c'est qu'on les fait faire à l'étranger parce que ça coûte trop cher ici.
Ah oui.
D'accord. Et oui, parce que c'est une pièce comme une autre en fait.
D'accord.
Et comme on n'a pas l'exigence d'un profil hyper affiné comme on l'a en voile, nous, on a besoin, au contraire, de profils robustes, que ça ne casse pas, que ça soit solide et qu'on se concentre sur la fonction de vol et non pas sur le fait que ça soit hyper performant. On ne va pas aller gagner 2 ou 3 km/h, on s'en moque, on a les moteurs pour ça.
D'accord, oui. Oui.
Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est la stabilité. D'accord ? Donc, c'est complètement différent en termes de philosophie. C'est la même pièce, c'est le foil, mais c'est complètement différent en termes de philosophie. Et donc, la fonction vol, c'est vraiment une question générale du bateau. C'est le foil, son intégration. Le fait que, avant, c'est la coque qui supporte, quand il n'y a pas de foil, c'est la coque qui supporte tous les efforts. Donc, c'est des kilonewtons d'efforts qui sont répartis sur une surface de plusieurs mètres carrés. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec le foil? On élève le bateau. Donc, tous les efforts se retrouvent concentrés dans quelques centimètres carrés qui vont être la jonction entre le foil et la coque. Donc, il va falloir aller redispatcher les efforts dans la structure. Donc, le foil, en fait, c'est tout ça. La fonction vol, c'est tout ça. C'est le foil lui-même, mais c'est la gestion des efforts dans la structure. C'est l'équilibre du bateau. Et puis, comme les avions, on peut réguler les angles des foils. Donc, c'est le foil. C'est une aile sous-marine. Alors, puisqu'on est à la radio, on a tous fait du foil depuis qu'on est gamin, mais tous.
Okay.
C'est quand on met la main dans la voiture,
c'est ça.
À la fenêtre.
Ah oui.
S'il n'y a pas de vitesse, ta main tombe.
Ouais, voilà.
Si, dès que tu as de la vitesse, tu joues avec le plat de ta main, et là, ça se met à porter.
Oui.
C'est rigolo. Hein
oui.
Et quand tu mets de l'angle à ta main, qu'est-ce qui se passe?
Ah oui, elle part en arrière.
Elle part en arrière. Et bien là, tu viens de décrocher.
D'accord.
C'est ce qu'on fait en avion quand on décolle ou qu'on se pose. L'avion, quand il décolle ou qu'il se pose, il joue avec le décrochage.
C'est ça.
Et ben, c'est ta main qui est partie. Et ben là, tu vas aller toucher le sol. Les roues vont se poser et ton avion se pose.
Ah, d'accord, je ne l'avais pas vu.
Et voilà. Donc en fait, on fait du foil, on fait de l'aviation depuis qu'on est tous gamins. Hein. Tous sur Terre, on en fait. Ouais. C'est d'atteindre une certaine vitesse.
D'accord, oui.
Donc nous, en bateau à moteur, on s'est figé un 15 nœuds. Les voiliers vont décoller plus tôt.
D'accord. Ouais.
Donc c'est voilà, on n'est pas sur le même genre de profil. Et donc la fonction vol des bateaux, c'est toute cette globalité. Et en fait, finalement, il y a une autre fonction qui est un peu similaire, c'est la fonction moteur, parce que le moteur, il n'y a pas que le moteur, il y a l'hélice, il y a la poignée de gaz, il y a l'hydraulique avec le volant. Ça, c'est une fonction motorisation.
D'accord.
Et ben nous, qu'on a une fonction vol. Et tout ça est vu donc avec une vision beaucoup plus globale qu'une simple pièce. Et ça, faire comprendre ça dans le commun des mortels, c'est pas simple.
Ouais.
Parce que les gens ont tellement la vision du foil sur la voile qu'ils ne voient que la pièce.
Ok, ouais. Ah ouais, voilà. Non, non, mais là, c'est hyper clair hein, sur votre site internet. Hein.
Ouais.
C'est super bien expliqué. Non, mais en termes de communication, c'est super bien foutu.
Ouais. Donc, alors, pour revenir à la création de Sierre,
ouais, voilà.
Quand je regarde le marché, je me dis, bon, t'es bien gentil avec tes idées un peu folles de bateau à moteur. déjà, il y en a plein d'autres qui l'ont fait avant toi, parce que dans les années 80, il y a eu la course pendant la guerre froide entre les Américains et les Russes sur les bateaux à moteur sur foil, des bateaux militaires.
D'accord.
Il suffit de taper sur Internet et tu vas voir, tu as des bateaux de 30 mètres qui sont 1,50 m, 2 mètres au-dessus de l'eau et qui tirent en volant. Quoi. C'est extraordinaire, ce truc-là. Mais voilà, c'était trop cher à l'époque, il fallait modifier les infrastructures.
Je mettrai un lien sur l'article qui te sera dédié là sur Slice pour montrer si je trouve des photos.
Je t'en enverrai.
J'en mettrai dans ton article comme ça pour montrer un peu. Ça existe depuis très longtemps.
Ouais, ça existe depuis très longtemps. Ça existe depuis très longtemps. Et donc, quand on crée Sierre, je me dis, bon, il faut quand même qu'on fasse connaître la marque, et la seule façon de connaître la marque, c'est la voile.
Tu démissionnes de Anéo.
Voilà. Okay. Bon, de toute façon, ça faisait un an et demi, deux ans que je sentais une forte divergence.
D'accord.
Simplement, à l'époque, j'étais trop jeune pour prendre le leadership, et puis j'étais sous l'influence, entre guillemets, de quelqu'un de plus âgé, de plus charismatique que moi. Et j'ai eu du mal à me révéler parce que je me faisais étouffer. Et c'est arrivé au fur et à mesure. Je ne vais pas m'apesantir sur un certain nombre de choses, mais... je pense que j'ai fait chez Anéo un certain nombre de choses qui font que la boîte existe toujours. Mais bon, ça, après, c'est un autre débat, là où on n'est pas d'accord. j'avais dans mon board des patrons du CAC 40, hein, parce que la boîte avait failli être foutue par terre pour d'autres raisons, et donc il a fallu aller rechercher de l'argent, etc. Et
c'est une grosse boîte, vous étiez 200 personnes.
Ouais, on était 200 quand je suis parti. On l'avait mené de 0 à 200. Donc je savais comment.
Donc t'avais déjà fait un peu tes armes, quoi. T'es là, ouais, t'étais prêt pour te lancer.
Et puis moi, je suis plus un homme de marge, une culture de marge et de rentabilité, alors que mon associé était plus un homme de volume et chercheur fou, quoi.
Oui,
et
donc divergence.
Divergence. Donc et j'avais préparé ma sortie puisque j'avais embauché un second.
D'accord.
Avec en tête le fait de préparer ma sortie, je l'avais embauché 2 ans avant et je suis toujours en contact avec Christophe qui a pris ma succession et qui est devenu le DG de la boîte. Donc tant mieux, quoi.
Ouais.
Donc du coup, je suis super content parce que la boîte est toujours là et que ça continue à bien marcher, donc ça c'est bien. Et donc quand je crée Sierre, donc je me dis bon bah voilà, c'est le bateau à moteur, ma vision, mais par contre ça marchera pas si je l'annonce comme ça. Donc qu'est-ce qui marche bien, c'est le foil pour la voile.
D'accord.
Et donc moi j'ai dit en interne chez Sierre, j'ai dit les gars, ça va pas vous plaire parce que vous êtes tous des amoureux de la voile, mais je vais vous interdire d'aller en course et on va vraiment faire voler les bateaux. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait une première mondiale, on a été la seule boîte avant l'America Cup. Aujourd'hui, ils sont magnifiques, les vidéos qu'on voit, les bateaux sont bien. Ça me fait rêver ce truc-là. Mais à l'époque, nous, on a fait ça au grand large.
D'accord.
Aujourd'hui, le 747 de Sierre, le mini 747 de Sierre, est le seul monocoque à avoir volé en 2016 au large. C'est le seul et unique au monde. Voilà, un bateau hauturier. Et nous, on faisait du 22 nœuds établi pendant une heure, un mètre au-dessus de l'eau. Alors que c'est un bateau qui va, quand il va à 15 nœuds, on est super content. Donc on avait amélioré de plus de 50% la performance de vitesse. Et donc du coup, la marque s'est tout de suite fait énormément. J'étais moi-même surpris par la puissance qu'a pris la marque Sierre sur les réseaux sociaux et worldwide.
C'est une grande fierté.
Alors aujourd'hui, c'est une super fierté. Alors aujourd'hui, moi, j'ai une forte déception parce que je pense que dans la course au large, on pourrait amener mais vraiment beaucoup de choses.
Faire encore plus de.
On fait des choses super compliquées en bateau à moteur. Mais il y a une espèce de rivalité entre le bateau à moteur et le bateau à voile. Enfin, moi, je trouve c'est un peu dommage.
Le bateau à voile, on te dit que c'est les vrais marins.
Ouais, c'est ça. Alors que moi, je ne suis pas du tout en opposition. Je pense que comme je suis un mec hyper ouvert en innovation, il y a un super schéma que je pourrais t'envoyer que j'adore. C'est un nuage de points. Tu vois un nuage de points et tu vois le même nuage de points avec des lignes différentes. Il y en a un, c'est une espèce d'arborescence, et puis l'autre, c'est un chat.
D'accord.
Donc en fait, l'innovation, c'est juste à partir du même point. Dans même nuage de points, tu fais des images différentes suivant que comment tu prends le problème.
Ouais,
je donne un peu des cours d'innovation et d'entreprise. J'adore l'exemple du lampadaire. On est tous dans une zone de confort. Un lampadaire, il t'éclaire bien, tu es bien sous la lumière. Tu vois très bien, tu es super content. Mais sauf que ta lumière, elle fait peut-être, que je dis n'importe quoi, que 50 watts. Mais à côté, tu as peut-être un lampadaire qui fait 300 watts. Mais tu ne vas jamais le voir parce que tu es tellement bien dans tes 50 watts.
Ouais.
Il faut juste accepter d'aller dans l'ombre.
Bouger un petit peu.
Voilà. Et le problème de l'innovation, c'est le management, c'est l'ouverture d'esprit. Voilà. Et ça, c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, en interne, t'as pas idée comme je lutte. On n'est que 12. Mais c'est d'une complexité folle en management au quotidien, quoi.
Donc, vous avez commencé à 2
Avec. Alors, non, pas à deux, parce que tout de suite, techniquement, il fallait...
Il fallait déjà du monde, ouais, etc.
Globalement, moi, j'y connais rien. Je suis pas du tout un technique du marin. Non, mais ouais. c'est... J'en parle bien parce que j'ai ma culture aéronautique et c'est super simple pour moi, parce que tout de suite, je me projette. Je fais l'association entre l'aéronautique et le foil, mais je suis pas du tout un bon technique. Voilà. Par contre, je m'approprie tous les trucs, je suis sans arrêt dans l'atelier, j'adore ça. Non, il fallait tout de suite des gens hyper pointus en bateau.
Sur quel type de métier,
architecture navale.
Architecture navale,
spécialiste du foil. Donc Bertrand était un des premiers Français à voler en GC32, donc catamaran de sport à foil. Et puis, on a bossé avec David Raison, un super architecte naval hyper connu qui avait déjà en tête depuis 20 ans son mini à foil, et en fait c'est une super rencontre. Voilà. Donc à chaque fois, voilà, avec des gens de beaucoup de valeur, et puis après, ben, la boîte elle a grossi, oui. Parce qu'il a fallu aller sur les bateaux à moteur, et donc évidemment on disait rien à personne, et en parallèle on bossait sur les bateaux moteurs.
D'accord. Et vous faisiez vos tests autour de l'Orient, ouais.
Ouais, c'est ça. Et en juillet 2017, donc le voilier vole en janvier 2017.
Ouais.
Donc énorme succès sur les réseaux, mais un truc de fou, quoi. Mais je t'assure, c'était hallucinant. Donc là, on convainc le monde de la voile qu'on peut faire des super trucs. Donc là, tout le monde en admiration. Et puis, on sort notre bateau à moteur 6 mois après, un semi-rigide.
Donc tu bosses avec un chantier naval?
Non.
Non. C'est vous qui...
Ouais, le métier de scierie, c'est être systémier quelque part. Hein. Notre spécialité, c'est la fonction vol. Donc l'idée, c'est pas de produire. Par contre, c'est d'avoir un atelier pour faire les prototypes et les versions 1, 2, 3, les trois premiers exemplaires d'une série, et après de faire fabriquer ailleurs.
D'accord.
Notre métier, c'est pas la fabrication, on veut pas être chantier naval. Et donc...
Juste pour tester, en fait.
Ouais, et pour mettre au point, parce que c'est quand même très compliqué.
Oui, pour faire les ajustements.
Ouais. Et donc, premier vol du semi-rigide en janvier 2017. Et là, on se dit, punaise, mais c'est pas possible, on tient
un truc. Il y a un truc là.
Donc, on pose beaucoup de brevets. Aujourd'hui, on est à 16 brevets. Et...
Ah oui.
Ouais.
Tu t'es fait accompagner pour...
Ouais. Et avec un descendant de la famille Lépine, l'inventeur.
Ah.
Ça ne s'invente pas.
Ça ne s'invente pas. Super.
Donc, Jacques Lépine, quelqu'un de super.
Si vous cherchez.
vraiment un type, un chercheur fou. Hein. C'est le professeur Tournesol. Et lui, il fait un super truc. Il fait la fourchette connectée. Ah bah tiens, je pense que tu peux l'interviewer. Hein. Fourchette connectée pour lutter contre la malnutrition, les maladies intestinales qui sont générées par le fait qu'on mange trop vite, etc. Super truc. Et ça marche bien. Hein. Franchement, il cherche des fonds, lui aussi.
Ah bah d'accord, bah je mettrai un lien vers son projet et tout ça, toujours dans l'article qui t'est dédié, voilà. Je lui ferai un petit coucou sur LinkedIn pour le mettre en avant s'il veut.
Voilà, donc on dépose beaucoup de brevets, et puis, on se dit c'est pas possible, on tient un truc, et puis on nous dit, ouais, il faut absolument que tu exposes un bateau comme ça au Salon de Cannes. Bon, okay.
Salon de Cannes, je
connais. Salon de Cannes, qui est un salon nautique très réputé, plutôt au standing.
D'accord.
Et alors, si on se rappelle bien, on est au 1er juillet, ouais. Et le salon est en septembre.
Ah ouais, en général,
donc,
c'est un gros...
Faire bouger la France en juillet-août pour que tu aies un bateau bien fini aux petits oignons, alors que c'était un prototype, nous, hein, c'était vraiment un truc qui n'avait pas de la gueule. Hein,
puis il y avait encore des places, si c'est un gros salon.
Et donc, on arrive à trouver une place, en tout cas, c'était libéré, et là, on expose, et des gens viennent voir le bateau, et une toute petite société qui s'appelle Beneteau.
tout petit,
mais je le savais pas à l'époque, s'intéressait au truc. Bon, voilà, on expose nos bateaux et poum, dans la foulée, on fait deux ventes, truc de dingue.
Deux ventes sur salon,
non, mais des contacts pris au salon,
ouais. qui se transforment,
ça c'est un truc de fou, quoi.
Ça c'est génial.
Donc en décembre, on signe nos deux ventes. Vente à perte, hein, mais on se disait, c'est génial d'avoir deux premiers clients qui y croient. Donc il y en a un qui est à la Trinité-sur-Mer qui a acheté un 7 mètres et puis l'autre un 5 m50 vers Saint-Malo. Et donc génial, deux gammes de bateaux, ils les ont toujours, ils en sont toujours super contents aujourd'hui, donc ils font toujours réviser leurs bateaux chez nous et franchement aucun problème. Et donc on se dit, c'est super d'avoir des early adopteurs qui vont nous faire un vrai retour terrain, parce que nous, on est toujours dans l'esprit de s'ouvrir.
Oui, et puis de s'améliorer.
Et de ne pas se dire, parce que moi, mes mecs, ils sont trop techniques chez moi, ils sont trop amoureux du foil et du bateau qui vole super bien, ils n'écoutent pas assez le client. Il faut écouter son client, c'est le marché qui nous guide, hein, c'est pas la technique. Hein. Mm-hmm. Et moi, je lutte contre ça. Je dis qu'on s'en fout d'être au dernier pouillème du truc qui va super bien marcher en technique, parce que si tu vends pas ton machin parce qu'il est soit trop compliqué, ou soit parce que ça sert à rien, tu perds des millions et puis t'es mort. faut écouter son client, son marché. Et donc on fait ces deux ventes de bateaux. Donc ensuite on n'en fait plus en 2018 parce que bah, le temps de travailler. On suit beaucoup nos clients, dès qu'ils ont des problèmes on leur corrige, parce qu'il y en a eu évidemment, forcément, oui. Ça c'est normal. Mais on les a toujours résolus et ils sont toujours super contents. Et Jacques me dit toujours, mon premier client, il me dit c'est chiant Richard parce qu'on se fait arrêter sans arrêt par tout le monde, parce qu'on va plus vite, c'est plus confortable. On se fait plus mouiller aussi avec nos systèmes. Parce que comme on est légèrement au-dessus de l'eau, 20 cm au-dessus, on n'a plus les embruns.
Est-ce que c'est pas décevant pour des vrais marins? Bah, de toute façon, ils peuvent désactiver.
Généralement,
puis, voilà.
Ouais, mais quand tu y as goûté, franchement. Non, mais donc les foils sont rétractables, ça on l'a pas dit.
Oui, alors, pour pouvoir bitcher, j'imagine.
Ouais, alors, moi, en tant que. Comme je suis pas un spécialiste, je suis pas un expert du monde marin, moi, je suis un utilisateur. En fait, je suis le meilleur client de la boîte, moi. J'ai passé mon permis moteur en créancière, quand même, mon permis bateau.
D'accord.
Et parce que je fais plutôt de la voile, mais je passe mon permis moteur pour créer quand même. Le garçon, il est un peu fou, hein. et du coup, je suis le meilleur utilisateur. Parce que moi, j'ai...
Tu as ton propre bateau cire?
Ouais. Mais simplement, j'ai un bateau normal aussi, parce que comme on a énormément de copains, on est souvent une douzaine à bord.
Ah
et
oui.
Le problème du bateau à foil, c'est qu'il est homologué pour moins de personnes.
D'accord, à mince.
Et aussi, on fait ça parce que comme on est sur le créneau du luxe, ouais. Ça sert à rien de faire des boat people, entre guillemets.
Oui.
Voilà. Donc, trois choses, c'est sécurité, simplicité. Et ouais. puis côté, le côté confort, après green, etc. Quoi. Mais c'est sécurité, simplicité. Donc, globalement, il y a deux boutons.
Ah oui, c'est d'accord.
C'est un bouton, je monte ou je baisse mes foils, donc j'active ou pas le système.
Mm-hmm.
Et le deuxième bouton, c'est j'active ou pas le système automatique de stabilisation du navire. C'est tout.
Ah, ça doit être trop bien. Ça doit être trop bien.
C'est trop bien.
Non, mais je me souviens, tu m'avais envoyé des photos où tu vois les gens, ils sont tout tranquillement installés dans le bateau. Et
tu le vois sur notre chaîne YouTube, on a un comparatif, on a mis deux bateaux côte à côte, dans la même mer donc. Et tu vois la différence de comportement d'assiette du bateau, c'est juste bluffant quoi. C'est juste bluffant.
Ok, donc en 2018, tu fais pas de vente.
Donc on fait pas de vente.
Vous
donc
travaillez,
on améliore sur
vous
les
améliorez.
Systèmes et où les choses donc commencent, c'est en 2019 où on commence à avoir des commandes. Donc là, on signe avec Beneteau.
Oui.
À l'époque, avec Patrick Tableau, je sais pas s'il écoutera, mais en tout cas, super génial ce projet extraordinaire. Alors toi, t'es tout petit, toi, tu crées SIR, t'es 10 personnes, tu dis attends, t'as le leader mondial qui vient de voir. J'en rêvais, mais pas. C'est trop tôt
ouais.
Là. Tu vas pas dire non à ce prestige-là. Et le CEO à l'époque, Hervé Gastinel, que je connaissais pas, voilà, était quelqu'un, même chose, super innovant, amoureux des bateaux, lui, depuis son plus jeune âge. Et il se projetait vraiment. Il se disait, de toute façon, le foil, c'est sûr que. Éric Tabarly a dit en 87, un jour, tous les bateaux volons. Donc j'utilise souvent cette phrase-là en citant Éric Tabarly. Et Hervé pensait pareil, en fait. Et donc l'idée, c'était de faire un bateau à moteur de 10 mètres ensemble. Et là, un projet de malade. On l'a fait en 9 mois. En 9 mois, on est parti de la feuille blanche. 9 mois après, le bateau de 10 mètres volait à la mise à l'eau. Et avec des super comportements. Et donc là, ça a été un super projet parce que je lutte aujourd'hui contre le fait de mettre des foils sur des bateaux. C'est, même si c'est ce que Sierre a fait jusqu'à aujourd'hui, on met des foils sur des bateaux qui existent. Et je lutte auprès de mes clients pour leur dire, mais non, il faut dessiner des bateaux volants parce que la carène n'est plus la même.
Oui.
On n'a plus besoin de naviguer c'est en archimédien. Parce que même si on a un problème, c'est pas grave, le foil est toujours là pour stabiliser, même si on ne vole pas. Donc on n'a pas besoin d'avoir des carènes hyper performantes et donc du coup on peut même changer l'aménagement intérieur du bateau.
Okay.
Et puis du coup on peut imaginer des lignes super osées, du design, enfin on peut tout changer en fait, on peut bouleverser le monde du nautisme quoi. Mais c'est trop tôt parce qu'il faut accompagner, il faut faire de l'accompagnement chemin. Mais voilà, en tout cas Hervé Gastinel pense que c'est possible et donc du coup on fait ce projet-là en 9 mois. Et donc là on avait vraiment dessiné un bateau volant, donc ça c'était un super projet. Et donc voilà, ça c'est Beneteau. Et entre temps, qu'est-ce qui se passe? J'adhère au GICAN.
Ouais. Le groupement des industries navales.
Voilà, des industries navales qui a quand même une grosse coloration militaire.
Oui.
Et puis, moi, par mon passé quand même militaire, je suis quand même très attaché à mon pays. Et voilà, j'ai cette fibre patriotique plutôt.
Patriotique.
Pas, patriotique, c'est quand même
différent. Oui.
Attention aux amalgames.
Attention.
Affaire politique.
Que penses-tu de la lettre des généraux?
et en plus, on a la chance d'être à Lorient à côté des forces spéciales.
Ouais. Et ah, c'est donc, comme ça que
ouais,
le lien se
et
fait.
Tout ça mis bout à bout, on les voit souvent s'entraîner. Nous, on sort tous les jours, partout, temps, été comme hiver. Et un jour, bah, il regarde un peu du coin de l'œil. Ouais, c'est quoi ton bateau? Tiens, monte à bord. Oh, tiens, c'est rigolo ton truc. Poum, poum, poum. Ah ouais, tiens, c'est marrant, c'est surprenant. Poum, nous, on monte sur leur semi-rigide d'assaut. Et voilà. Et en fait, l'histoire commence comme ça.
Juste une rencontre comme ça
ouais.
en mer.
Et puis entre temps, on me dit ouais, tiens, faut que tu concours au cercle de l'arbalète. Tout ça, c'est un concours d'innovation pour toutes les boîtes, quelles que soient les armes, quels que soient les pays.
Alors que le cercle de l'arbalète, c'est une association qui est spécialisée dans tout ce qui peut être matériel utile pour les forces spéciales. Pour les auditeurs qui
exactement,
connaîtraient pas, voilà.
Que je connaissais pas.
D'accord.
Et je rencontre Isabelle Potier, une femme extraordinaire, Isabelle, et on se rencontre à Paris, et je lui fais essayer le bateau, on faisait des essais sur la Seine.
Ah ouais.
Et elle me dit, mais Richard, il faut absolument concourir au cercle de l'arbalète, il y a un concours d'innovation, il faut absolument le faire. Mais
c'est dans le cadre du Sofins ?
Ouais, dans le cadre du Sofins.
Donc le Sofins, c'est le salon du cercle de l'arbalète pour, en fait, c'est un salon utilisateur. C'est les utilisateurs des forces spéciales qui viennent visiter, puis les entreprises qui présentent leurs dernières innovations. Voilà.
C'est ça. Et donc Isabelle me dit ça, et je lui dis, vous savez Isabelle, c'est pas possible, parce que le cercle de l'arbalète m'a dit que j'étais trop avancé dans mes contacts, et que c'est pas la peine. Elle me dit, oh, mais si, il faut le faire.
Okay. Tu obéis à Isabelle quand elle te dit quelque chose.
Ouais, et puis... Et puis donc, voilà, on fait le truc. L'annuaire était déjà imprimé. Hein, on rentre, mais vraiment en fin de concours, quoi. Et Sierre n'était pas dans l'annuaire, donc elle avait fait une petite feuille volante à 5.
C'est celle qu'on remarque le plus.
Qui était rajoutée dans le petit annuaire. On concourt.
Ouais.
Et Sierre gagne le concours.
Oui, et je crois qu'il y avait deux... Non, il n'y avait pas deux...
À l'époque, il y a eu 250 candidatures, je crois, de dossiers. Donc, ça va être... Il y a la bactériologie, la balistique, la cybersécurité. Il y a tout, quoi. Et
oui,
c'est nous, les drones, tout. Et c'est Sierre qui gagne le concours. Et l'amiral Isnard, qui, à l'époque, était le président... le patron du COS, donc du commandement des opérations spéciales, me remet le prix et me serre la main et me dit « Monsieur Forest, on se reverra ».
Okay.
Moi, pas très habitué de toutes ces hiérarchies, de ces process militaires, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais en fait, j'avais une chance encore inouïe, c'est que... Alors là, c'est de la vraie chance, là, pour le coup, puisque le fait d'avoir un amiral patron du COS, enfin vice-amiral, mais d'avoir un amiral patron du COS, du coup, il avait le pied marin, il s'est immédiatement projeté, parce que lui-même a été en opération. Donc ça, c'est de la vraie chance, parce que ça aurait pu être
quelqu'un qui était totalement étranger à...
Ça aurait pu être un militaire ou un militaire de terre ou un militaire
de l'air,
de l'air. Et là, on a eu de la chance, c'est qu'à ce moment-là, le COS était piloté par un marin.
De la marine, ouais.
Donc ça, c'est un vrai coup de chance. Et du coup, sans le savoir, on faisait une super opération de lobbying qui se faisait par le haut avec le commandement général des opérations spéciales et par le bas avec les gens terrain. Parce qu'on ne peut pas convaincre un état-major si on n'a pas les gens terrain.
C'est ça.
Parce que, voilà. Et inversement, on ne peut pas convaincre les gens terrain s'ils ne vont peut-être pas arriver à faire remonter le projet si l'état-major n'est pas non plus enclin à oser la chose.
Et puis, n'est pas convaincu aussi que ça peut être...
Exactement. Et donc là, du coup, c'est un alignement des planètes assez fort où il y a le top management des opérations spéciales qui me voit et qui me dit « on se reverra un jour ». Et puis les militaires qui arrivent, ils disent « c'est quand même rigolo ton truc voilà. ». Et donc du coup, on fait des essais, je ne sais pas, ça peut-être durer un an, facile. Plein de pilotes de forces spéciales, hein, que ce soit le commando Pontchardier, que ce soit Hubert dans le sud à Toulon, qui ont essayé les bateaux aussi. Mais on ne le savait pas, en fait, il y avait des rapports qui circulaient sur nous au sein de la DGA, avec le CEPN, le Centre de la Prospective Navale, avec le COS, mais tout ça, on ne savait pas.
Ouais.
Et on me dit comme t'as gagné, c'est le cercle de l'arbalète qui me dit expose au Sofins et tu exposes dans le stand des startups. Ah ok, on paye notre petit stand Sofins. Et là à ce moment-là, on me dit rendez-vous chez les Fusco. Donc là avec l'amiral
fusilier commando
à Lorient. Donc là avec l'amiral Lucas. Un commandant que je vais peut-être pas citer pour des raisons évidentes, et puis bon, plusieurs gens terrain, et c'était un mois avant le Sofins. Et on me dit on est intéressé par votre bateau, faut nous faire une proposition pour un prototype, voilà, nous on connaît bien les Tracos, c'est un bateau avec lequel on fait des opérations commando depuis 20 ans, on le connaît super bien, et ça je pense que c'est une décision super intelligente. Ce qu'ils ont fait, c'est de prendre le bateau qu'ils connaissent le mieux.
et de leur dire et de nous dire bah voilà, essayez de le modifier, de le faire voler. Et nous on a des contraintes très fortes, c'est l'assaut. C'est-à-dire que les folles rétractées là comme vous les avez fait dans le civil, ça n'ira pas, il faut tout refaire.
Voilà, pourquoi ça n'ira pas?
Parce que
sûrement curieux, mais
parce que quand ils sont à l'assaut sur un ferry, il y a des tels chocs quand les deux bateaux vont être côte à côte, le flotteur du semi-rigide d'assaut va venir taper la coque et certaines fois le bateau est à 45 degrés.
D'accord, ouais.
Donc nous, nos folles qui sont dessous, même à 45 degrés, ils taperaient dans le ferry.
Okay.
Donc risque de dommage du bateau, risque de sécurité. Ce qui est fondamental avec les forces spéciales et avec tout militaire en général, c'est préserver les hommes.
Ouais.
Hein, il faut qu'ils soient frais quand ils arrivent en mission. Il faut en plus qu'ils se concentrent sur la mission.
Il ne faut pas les mettre en danger. Voilà.
Donc les folles rétractables telles que Cyr les avait fait, ça n'allait pas.
D'accord.
Et nous, on lui dit... on sait comment faire, mais simplement nous on n'a pas les moyens et voilà. Et donc du coup il dit pas de souci, vous faites une proposition commerciale un mois avant le Sofas. Ça te tombe sur le coin du museau, ça, tu te dis bah super. Donc même chose, tu signes avec Beneteau, tu fais un bateau qui vole, là maintenant tu te dis attends, oh là là, c'est l'armée qui te demande.
Mais t'avais
un truc.
Pas pensé au marché militaire?
Mais si, mais même chose, tu te dis que t'es trop petit.
Oui.
T'es trop petit. Et en plus moi je suis super en risque. Aujourd'hui je suis en risque énorme. Hein. À l'instant où on se parle, je suis en risque énorme parce qu'ils n'ont toujours pas essayé le bateau. Ils vont l'essayer dans 2 semaines. Et si ça marche, c'est tapis rouge.
Ouais.
Mais si ça ne marche pas, je peux me griller totalement. Alors que ça peut ne pas marcher juste parce qu'on n'est pas encore assez mûr. Mais parce qu'il faudrait que le projet dure. Pour moi, le projet devrait durer encore 2 ans. Voilà. Donc j'espère que le Fonds Innovation Défense, avec qui aujourd'hui on est en discussion, j'espère qu'ils vont contribuer à nous aider. Mais aujourd'hui, pour moi, le projet, il n'est pas abouti. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'enveloppe financière pour continuer à le travailler. Donc aujourd'hui, je suis en vrai risque, hein, typiquement. Donc bref, donc il me dit, voilà, et on se revoit au Sofins, et en fait, on a signé au Sofins. Et en même temps, l'agence Innovation Défense se crée. Donc Florence Parly, j'ai une chance inouïe, donc... alors, en fait, j'ai une double chance, c'est qu'entre-temps, on avait signé avec un fabricant de bateaux qui expose au Sofins,
oui,
le bateau militaire, mais qui avait décidé d'arrêter son projet. Il expose le bateau, mais il n'est jamais à côté. Donc, chaque fois, on venait me chercher pour expliquer le bateau. Donc, moi, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai abandonné mon stand CIR,
ouais,
et j'ai passé les 5 jours
du salon
au pied du bateau.
D'accord.
J'ai eu les visites ministérielles de Florence Parly, du général Lecointre, donc chef d'état-major des armées, de tous les ingénieurs à un moment de la DGA, les délégations
internationales, donc, ouais.
J'ai passé ma vie au pied du bateau. Mes petits copains de Zodiac Milpro qui étaient à côté, ils avaient un peu moins de visites que nous. Et là, je rencontre Florence Parly, on discute, femme passionnante, vraiment. Passait un quart d'heure autour du bateau, quoi, avec l'attroupement. Il y avait le député Jean-Michel Jacques, avec qui maintenant je discute beaucoup aussi. Et voilà, donc tout ce microcosme s'est créé ici. Et donc le contrat qu'on a signé avec l'agence Innovation Défense, c'est un super contrat parce que c'est là où on sent que la France, quand même, nous pousse beaucoup. On voit trop l'armée, souvent, comme là, on appelle la tort la grande muette, mais je pense qu'il y a eu un vrai changement de mentalité depuis. Je pense que Florence Parly est pour beaucoup. De mentalité où les PME sont vraiment maintenant mises en avant et prises au sérieux. Et moi, je trouve qu'on a un accompagnement qui est vraiment, vraiment très, très fort, quoi. Aujourd'hui, dans le contrat qu'on a avec l'Agence Innovation Défense, il y a des royalties qui sont prévues pour l'armée, pour la DGA, mm-hmm, si jamais on vend nos systèmes. Moi, je trouve super intelligent, ça.
Ouais.
De lâcher quelques pourcents, c'est pas grave. Parce que du coup, je suis garanti qu'ils m'aident. Et en fait, ils le font vraiment, parce que moi, j'avais contacté tous les attachés de défense des ambassades.
Oui.
Et aujourd'hui, j'ai eu un coup de fil d'un attaché défense que j'avais eu en contact il y a quelques temps, qui essaye de promouvoir la solution française CIR en Irlande.
Oui, ben ça, tous les ans, hors Covid, il y a journée des attachés de défense.
Voilà.
Et le ministère de l'Intérieur fait la même chose.
Exactement.
Avec les attachés de sécurité intérieure. Et c'est toutes les PME qui,
c'est
pendant
ça,
une demi-journée, vont rencontrer tous les représentants MINARM et représentants ministère de l'Intérieur qui vont partir dans les ambassades l'étranger. Et les PME ont 7 minutes pour donner leur petit papier, leur présentation,
ouais,
etc. Et ces gens-là font le lien sur place à l'étranger avec les autorités pour vendre des solutions françaises. Donc
ouais,
ça,
voilà,
c'est ça.
Et donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, après, il y a un appel d'offres européen qui s'appelle EDIDP. Donc, c'est European Development... c'est quoi?
C'est pour la politique européenne,
c'est ça? Ouais, Innovation Defense Programme. Donc, c'est vraiment les programmes d'innovation de la défense de demain.
De demain pour l'Europe.
Et donc la France pousse beaucoup à déposer des projets, et donc il y a 9 PME qui sont soutenues par la DGA pour présenter des projets, et SIER fait partie des 9. Donc on a monté un consortium européen avec des Danois et Espagnols. Pour proposer, bon je peux en parler hein, puisque il n'y a rien de secret défense là-dedans, c'est une vedette de pénétration rapide pour les forces spéciales encore. Donc là on est plutôt sur un bateau de 20, d'une vingtaine de mètres.
Alors pénétration rapide,
c'est-à-dire qu'ils veulent faire des grandes distances mais à grande vitesse.
D'accord, ok.
Hein, donc typiquement on pourrait partir de Brest et aller je sais pas en Espagne, au Portugal. Donc bah, typiquement c'est pour faire du narco, j'imagine hein, que c'est pour faire du narcotrafic,
intercepter des
interceptions. Pour faire de la surveillance rapide ou enfin voilà, se mouvoir assez rapidement une troupe de 15-20 personnes.
D'accord, ok.
Ça n'y a rien de secret là-dedans puisque c'est communiqué.
Oui.
Donc voilà, bah, typiquement la France nous a aidés. Voilà.
Translator, c'est ça. C'est...
Translator, on l'a
appelé. Translator, pardon. Ouais.
Troop Transportation Flying Vector. Donc si on revient, si on se repositionne un peu plus sur le marché civil, parce qu'on est quand même une société duale civile-militaire. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très très important quand on est sur la création d'un marché, parce que les bateaux volants, ça a beau exister depuis très longtemps, on crée un marché quand même. Il n'y a pas plus difficile comme vente. Hein. Je prends souvent un exemple, c'est les Google Glass.
Ouais.
Hein, parce que les Google Glass, on va revenir à mon vieil âge de 50 ans. Les Google Glass, c'est apparu dans les années 90.
Ah oui, c'est d'accord si, ouais.
Et donc, l'exemple typique où on n'est pas time to market, c'est-à-dire que techniquement, c'était au point.
Mais
juste, ça n'a pas trouvé son marché parce
c'est
que ça plaçait un produit nouveau. Hein. Google essayait de créer son marché. Ils ont fini par vendre les Google Glass à une boîte. Et aujourd'hui, cette boîte, elle fait fortune dans le médical. Parce que pour les opérations de chirurgie, ils mettent les Google Glass et du coup, à distance, les autres peuvent voir comment le chirurgien opère ou montrer ça dans une salle ou pour les étudiants, etc. Donc voilà, c'est l'exemple type de quand on crée son marché, il n'y a pas plus difficile comme vente. Donc c'est important d'avoir une dualité civile et militaire. Alors, ce qui est génial, c'est que le côté militaire a quand même des moyens pour nous permettre. Aujourd'hui, on perd de l'argent sur le contrat qu'on fait avec les forces spéciales, mais je considère que ce n'est pas grave. Parce que c'est un financement de la R&D. D'accord ? Donc, c'est pas grave, c'est la vie d'un entrepreneur qui doit prendre son risque. Et après, il faut que tes investisseurs.
Comme ça, de toute façon, tu pourras toujours réadapter au civil. Voilà.
Mais du coup, j'ai une crédibilité forte parce que quand tu dis dans le civil que tu as fait un système pour les forces spéciales, quand même qu'il n'est que expérimental pour l'instant, c'est quand même un sacré coup de tampon French Army.
Tu vas demander le label utilisé par les forces armées quand ça sera.
On ne peut pas l'avoir parce qu'on est sur une expérimentation et on n'est pas sur un produit utilisé.
D'accord, mais une fois que ce sera fait, bien évidemment.
Néanmoins, ça ne m'empêche pas de beaucoup communiquer dessus parce que de toute façon, comme l'Agence Innovation Défense communique beaucoup sur notre projet. Voilà, j'ai revu Florence Parly quand elle est venue annoncer la création du fonds Definov justement à Lorient. C'était assez rigolo parce que bon, elle m'a dit oh, alors comment il avance votre projet. donc voilà, la dualité civile et militaire est vraiment très très importante et donc elle nous permet vraiment dans le civil de dire voilà, c'est French Army approved. Donc ça c'est top, ça apporte vraiment de la crédibilité. Et puis inversement, t'es pas sur le même temps, hein, t'es pas sur le même espace-temps, un projet militaire, tu vois, moi j'ai signé en 18 mois avec l'armée finalement, entre le moment où on s'est connu sur l'eau avec les forces spéciales et le moment où on a signé. On a mis 18 mois, c'est juste étonnamment rapide. D'habitude tu signes en 24-36 mois, donc t'es pas sur la même échelle de temps. Si on prend le projet européen militaire, c'est un projet à 5 ans, tu vois. Donc, il faut vraiment que le civil te nourrisse court terme et que tu bâtisses le militaire moyen terme.
Et t'as le temps de faire les deux en parallèle ?
C'est pas que t'as le temps, c'est qu'il faut que tu le trouves. Faut que tu le fasses. Et du coup, les deux te permettent de progresser parce que tu as des défis à résoudre dans le militaire qui vont t'apporter des solutions dans le civil et inversement.
Ouais.
On pense des trucs dans le civil qu'on ne peut pas faire parce que ça coûte trop cher et on a pu le mettre en œuvre sur le militaire parce qu'il y a plus de moyens. Voilà. Mais parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, si on revient au civil, donc en 2020, on commence 2019 et 2020, on expose au salon de Monaco, au Monaco Yacht Show. Donc là, qui est un salon dédié aux multimillionnaires et milliardaires. Parce que nous, donc, en fait, on a un outil qui est extraordinaire, ce bateau volant. C'est un outil qui fait rêver. J'ai rencontré François Picard dans le cadre, parce que je suis membre de l'Aéroclub de France.
D'accord.
Toujours dans ma passion aéronautique. et la marraine de Sierre est Catherine Monory, qui qui est la double. Donc, je t'ai dit tout à l'heure dans l'interview que j'étais très attaché aux femmes qui réussissent et qui ont du leadership. Et quand j'avais sponsorisé le bateau pour Anne Cazeneuve, je voulais une marraine qui soit connue. D'accord. Et en fanat d'aviation, j'ai immédiatement pensé à Catherine Monory, qui est la seule femme qui est 10 fois championne de France et je crois que c'est 2 fois championne du monde de voltige aérienne. Donc oui. C'est vraiment une grande dame.
Ah oui.
Et j'ai un jour, je décroche le téléphone. Et, bonjour madame, est-ce que vous voulez pas être marraine de mon marrant? Du coup, on est resté en contact et Catherine, donc maintenant, est la présidente de l'Aéroclub de France. Elle m'a gentiment sponsorisé l'avion pour nous faire de l'image. Il y a un petit logo CIR sur son avion de voltige.
Ça, c'est voilà, cool. Hein.
J'ai encore
ça,
refait.
C'est top, hein.
J'ai encore refait. Ouais, t'es super honoré quand t'as des gens comme ça.
Tu m'étonnes.
Qui ont une telle aura qui te parraine, c'est vraiment top. Donc, bref, je rencontre Bertrand Piccard. Je dîne à sa table un soir avec André Wurzburg. Et il me dit ouais, mais il me dit, c'est génial ton projet parce qu'il est innovant. Et puis, t'as des images qui peuvent faire rêver, comme moi avec Solar Impulse. Ça faisait rêver.
Ouais.
Moi, j'ai suivi Solar Impulse, ah, oui, évidemment,
ouais.
Tout du long. Magnifique projet. Et voilà. Donc, en fait, on a la chance de faire rêver. Donc, du coup, ça intéresse le luxe. Parce que c'est des gens qui cherchent à se démarquer, d'avoir
oui.
toujours le
ah,
dernier
bah,
jouet.
Forcément, oui.
Toujours le dernier jet. Et en plus, tu vas leur amener du confort. Ils vont plus se faire mouiller. Ils vont plus se faire rincer par les embruns. Ça tape beaucoup moins. Et puis, du coup, bah, comme tu amènes quand même des solutions qui vont 20% plus vite que le copain dans la même mer, tu es toujours devant. T'es toujours devant. Nous, là, on fait des campagnes d'essai. On a passé tout l'été dernier entre Saint-Tropez et Monaco. Il n'y a jamais un bateau qui nous a doublé. Parce que dans la même mer, tu es toujours plus rapide avec les systèmes de foils. Toujours plus rapide que le copain qui n'a pas les foils. Toujours, toujours, toujours. Donc, tu fais des bateaux plus élégants, plus sympas.
Et ça attire
et voilà.
l'attention.
Et donc là, on fait une première vente à un multimillionnaire l'année dernière. Mm-hmm. Et puis, bah, maintenant, ça s'enchaîne. Donc là, mes deux ventes en France, ce sont mes deux Orly Adoptor de 2018. Ouais. Mais en fait, on ne vise pas la grande plaisance. Nos bateaux sont trop chers. Hein. Donc, on ne vise maintenant que le luxe et l'ultra-luxe.
D'accord,
donc aujourd'hui,
okay.
mes bateaux sont... J'en ai un à Sydney, un en Nouvelle-Calédonie. Donc là, on en livre un à une éminence que je ne peux pas citer dans le Moyen-Orient.
Okay.
Voilà. Dans le luxe, il faut être aussi discret que dans le militaire.
Oui,
hein?
J'imagine
bien. Et puis là, on a un qui part à Saint-Barth. Voilà, c'est que des destinations comme ça. Hein? Donc, parce que bah, il faut aller là où il y a le pouvoir d'achat et là où on va arriver à vendre nos bateaux.
D'accord, donc c'est soit le luxe, soit militaire.
Voilà, et maintenant, on a la chance d'être très reconnus pour notre maîtrise du vol et des systèmes complexes et asservis des foils. Et donc, dans le cadre de bateaux plus grands maintenant, on ne se positionne pas du tout en vendeur de bateaux, mais en bureau d'études.
D'accord.
Et donc
pour
là.
Pour adapter, non ? Pour adapter ?
Pour adapter, et puis pour. En fait, le bateau green de demain, aujourd'hui, on va arriver au sujet de l'écologie. Tout le monde s'excite sur le bateau électrique. Et je le dis au risque de vexer des gens, je pense que beaucoup de gens se trompent. C'est-à-dire que le bateau green de demain, je pense qu'il n'est pas électrique. Il sera à solution combinée.
D'accord. Oui.
Hein? C'est-à-dire que certes, le moteur sera électrique, mais je pense que la batterie, c'est pas quelque chose qui est voué à perdurer. Je crois plus à l'hydrogène, même si aujourd'hui, oui. l'hydrogène n'est pas encore très fiable parce qu'il y a une telle départition quand on le fabrique.
Mm-hmm.
Que voilà. Donc, il y a encore plein de contraintes. Donc, je pense qu'il n'y a pas de maturité encore suffisamment de techno. En tout cas, nous qui visons la pleine mer, l'électrique, ce n'est pas possible. Hein, ça, c'est prouvé, démontré. C'est-à-dire qu'avec un bateau aujourd'hui qui est full électrique à batterie, je ne parle pas des transrades hein, ou des bateaux qui font du 8-10 nœuds, des bateaux bus comme ça, ça marche très très bien. Hein,
oui.
Ça marche très très bien en électrique.
Okay.
Mon point, c'est de faire du 20 nœuds pour aller en haute mer, pour aller desservir une île, une plateforme éolienne, un champ de ferme marine ou ce genre de choses où on a une demi-heure de route minimum en pleine mer avec une mer qui peut avoir des vagues à 1,50 m.
Ouais.
D'accord. L'électrique, ça ne marche pas, quoi
okay.
qu'il arrive. Nous, on le démontre, hein, on a fait Gros à Lorient. Hein, c'est 20 minutes aller, 20 minutes retour.
Pas...
Et ben oui, ben, quand il y a de la vague, on serre les fesses et on réduit les gaz parce qu'on n'est pas sûr qu'on va avoir assez de batterie pour rentrer. Ouais. C'est avec des bateaux que je ne citerai pas qu'on a testé. Donc, l'électrique ne marche pas. En fait, quand je prends souvent l'exemple qui parle beaucoup, je pense qu'il va parler aux auditeurs, c'est comme si on te disait dans le cadre de ta rénovation de ta maison... Prends la chaudière dernier cri, là tu vas prendre le dernier truc qui fait pompe à chaleur leur papa maman le café. Mais par contre, t'isoles pas tes murs avant.
Ah oui. Ok, oui, je vois l'image. Ouais.
Le bateau, qu'est-ce qui freine le bateau aujourd'hui? Pourquoi on dépense de l'énergie en bateau? C'est parce qu'on pousse de l'eau inutilement avec la coque.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut isoler le mur de la maison. Ben, nous, il faut lever le bateau pour que la carène elle touche plus l'eau, pour dépenser moins d'énergie pour naviguer.
Voilà.
C'est ça le green, c'est commencer par élever le bateau. Donc la première solution green pour les bateaux, c'est le fog. Et ça, le temps que le marché le comprenne, c'est compliqué. Et ça, il commence à le comprendre. Ouais. Donc là, on vient de se faire embarquer, c'est le cas de le dire, sur un projet de 30 mètres, de 25 mètres, bateau hydrogène,
d'accord,
pour aller desservir les champs de plateforme éolien en mer.
Okay.
Donc ça, c'est un super projet, parce qu'on ne va pas faire voler un bateau de 25 mètres, évidemment. Mais techniquement, c'est possible, mais sauf que ça n'a pas d'intérêt économique. Mais par contre, si tu arrives à élever le bateau d'au moins de la moitié,
c'est ça, un petit peu, ouais,
de la moitié, c'est toujours ça en moins, ouais, c'est toujours ces mètres cubes en moins qu'on va pousser inutilement dans l'eau, donc on va consommer moins d'énergie. Et du coup, tu vas avoir besoin de moins d'hydrogène, tu auras un meilleur rendement. Et là, tu seras en bateau électrique, mais mu par l'hydrogène, et parce qu'il vole, parce qu'il foil,
ouais,
du coup, tu vas soulever,
on pousse moins d'eau et ça consomme moins.
Voilà, et là, c'est sur des dessertes de bateaux. Pour les plateformes éoliennes, c'est une heure de navigation, plus le retour, c'est deux heures. Les gens, ils sont brassés en pleine mer, donc tu vas amener du confort. Tu vas consommer moins d'énergie et tu vas aller 20% plus vite. Donc voilà, ça, c'est la deuxième activité de CIR. Maintenant, on commence à rentrer dans le bureau d'études sur des bateaux, d'accord, de 25-30 mètres.
Voilà. Et c'est quoi la suite?
La suite, donc
est-ce qu'il y a d'autres projets, des rêves, des...
Le rêve, je pense qu'il est en train de se concrétiser, c'est-à-dire que... aujourd'hui, on a vendu 9 bateaux en 3 ans, ce qui est énorme. En fait, je me suis amusé à faire une timeline de tous les bateaux concurrents qui sont soit à foil, soit un peu exotiques, c'est-à-dire des bateaux qui ont des chenilles ou des bateaux qui sont à roues. Donc, qui sont comme nous,
d'accord,
avec des innovations un peu de rupture.
D'accord. À chenilles, c'est-à-dire... Alors,
c'est un bateau à chenilles, c'est-à-dire qu'il peut sortir de l'eau et rentrer au garage direct ou aller sur la route.
Ah oui, d'accord, donc oui, terrestre à la fois, marin, voilà, et terrestre, d'accord, ok.
Donc, on peut citer les marques, hein. C'est Iguana qui est une boîte française. Mm-hmm. J'ai rencontré Antoine assez récemment, parce qu'on se ressemble énormément. Au début, on voulait être équipementiers tous les deux, on se rend compte qu'il faut être fabricant de bateaux finalement.
Ouais.
Et puis, on vend des bateaux chers. Nous, notre entrée de gamme, c'est, il n'y a rien en dessous de 150 000 euros, hein, pour un bateau de 8 mètres chez nous.
Hein. Ah d'accord, oui. D'accord.
Parce que c'est des bateaux qui sont chers, les systèmes sont chers, sont complexes. Et lui, c'est pareil. Et puis lui aussi, il est sur un marché civil et militaire, il est dual. Donc en fait, on se ressemble beaucoup. Donc du coup, j'ai pris un peu ces boîtes-là. Donc Sea Legs pour les bateaux à roues et Iguana pour les bateaux à chenilles.
Ça se rétracte les roues aussi, ça, ouais, en fait, c'est le même, ouais.
Et les chenilles aussi se rétractent. On est tout pareil en fait.
Trop bien.
Tout pareil. Et quand tu prends les timelines de ces trois boîtes, Sierre, Iguana et Sea Legs, tu te rends compte que c'est nous qui avons été les plus rapides à vendre dès le début. Aujourd'hui, une boîte comme Sea Legs a vendu 1800 bateaux en 14 ans.
1800 bateaux.
Ouais.
Tout de ouf.
Et donc, c'est un bateau qui a une contrainte, c'est qu'il doit aller sur Terre. Alors que moi, je n'ai pas de contrainte d'aller sur Terre.
Oui, toi.
Moi, je peux vendre à des gens qui ont un yacht ou qui n'ont pas une maison sur la plage. Ouais. Donc, moi, mon marché est plus grand que le sien. En 14 ans, 1800 bateaux. Hein. Iguana, là, il en arrive maintenant, il fait 20 bateaux par an. Oh. Bateau à chenilles qui est au même prix que moi. Donc, le marché, il est énorme. Donc, moi, mon rêve, c'est de faire la marque CIR d'un vrai bateau volant dessiné depuis la feuille blanche. Et ben, je suis content parce que mes investisseurs ont décidé il y a seulement un mois de faire ça. Donc là, je repars en très grosse levée de fonds.
Ouais.
Et donc, du coup, ça tombe vachement bien avec le militaire, parce que pour que le fonds innovation défense mette dans CIR de l'argent en tant qu'investisseur, il faut qu'à côté, j'ai un investisseur civil qui fasse la même chose.
D'accord.
Et donc, du coup, je suis parfait en timing, puisque j'essaye de lever des fonds tant pour le civil que pour le militaire.
Okay.
Donc j'espère que donc là, la timeline, c'est 2023, okay, avoir le premier bateau 100% CIR avec on est en train de discuter avec des designers pour tout de suite faire venir des designers pour avoir une élégance infinie pour vendre dans le grand luxe. Et après, on va descendre au fur et à mesure de gamme, parce qu'on va arriver à faire baisser les coûts comme ça, oui, se fait dans tous les marchés.
Bien sûr, oui.
Les bateaux à roues, au début, ils ont vendu qu'aux milliardaires, hein. Donc ça se fait comme ça en fait, c'est d'abord tu attaques le luxe, une fois que les produits deviennent matures, ils sont de plus en plus vus, en plus nous on a la chance d'avoir une traction de communication forte, on a des milliers d'abonnés sur nos sites, voilà, ils nous connaissent déjà, mais simplement on est trop cher, donc les coûts vont diminuer au fur et à mesure, et quand je discute maintenant Hervé Gastinel, l'ancien PDG de Beneteau, à qui maintenant je suis en contact, et qui gentiment me fait du conseil pour bien me positionner sur le marché, voilà, on est assez d'accord sur le fait que pour le grand public, autant il serait mûr aujourd'hui déjà dans sa tête, mais dans le portefeuille, il ne l'est pas.
Oui.
C'est trop cher. Et on pense que d'ici 10 ans, ça sera nos petits-enfants ne sauront même pas que les bateaux sans foil, ça existait, je pense. Non, mais véridique, hein, c'est...
Dans les livres d'histoire, ils verront ça.
Sierre est déjà dans les livres.
Ah ouais ?
Un truc de dingue, ça aussi. Elle est déjà dans des bouquins, ouais.
C'est cool, ça.
Ah, c'est fou, ça me passionne. Ça.
Bon, dans deux semaines, le test du bateau avec...
Bon, alors nous, ça fait un moment qu'on le teste.
Ouais. Et ça va, il est bien.
Il est jamais assez bien. Nous, on voudrait travailler dessus 10 ans encore.
Ah ben, à un moment, faut rendre la copie. Faut
c'est
y
ça.
Aller.
Faut rendre la copie.
Après, même s'il y a des petits couacs, enfin, c'est ce que je te souhaite pas, je pense que ça va bien se passer, mais bon, il y aura toujours moyen de
l'adapter. Après, tout dépend de la perspective, parce que nous, on connaît leurs exigences,
oui.
On sait que c'est qu'un démonstrateur, et après, c'est toujours pareil, c'est que quand toi, t'es pas à bord, quand ils testent, tu sais pas comment ils vont réagir.
Ah, tu seras pas là. Tu leur livres
et après, ils jouent avec.
Ils vont le tester à mort. C'est ça, ils vont aller jusqu'au bout.
Ah ouais, moi j'ai des souvenirs d'être sorti. Tu vis des trucs, mais c'est.
Il faut tester jusqu'au bout, hein. Faut aller au bout
à
du.
À 50 ans, je suis comme un gamin. Moi. J'ai un souvenir, j'ai fait une sortie. Il y avait 3 pilotes des forces spéciales et on avait gué 2 heures. Donc ils ont fait chacun 3 séances de 20 minutes de pilotage.
Ok.
J'étais trempé. De la tête aux pieds, alors que c'est des bateaux qui mouillent pas d'habitude. Hein.
Mmh.
Ils ont une façon de piloter qui est juste extraordinaire.
T'étais accroché.
Les muscles tétanisés.
Non, mais
je me revois, tu sais, tu tiens les. T'as deux anses devant toi où tu tiens le fauteuil du gars qui est devant toi. Donc,
là, ah
donc déjà, quand je vois la taille de ma main par rapport à la taille du gars qui est à côté de moi, ça fait le double.
Ouais.
Mon biceps, c'est son poignet. Le type, il est 2 fois plus baraqué que moi. Et donc, les gars, ils testent ça. Donc, déjà, tous les 3, ils ont 3 façons de piloter, mais totalement différentes.
Ah ouais, à ce point-là, d'accord.
Ah, mais c'est impressionnant.
Ça n'a rien à voir, ok.
Et donc, j'ai annulé tous mes rendez-vous de l'après-midi. Et je suis allé dormir, tellement j'étais fatigué. C'est un moment de ma vie extraordinaire.
Et après, t'es bien content de revenir tranquillement, genre.
Non, mais j'ai adoré cette navigation. Et à cause du Covid, on n'a pas pu faire un assaut, mais on devait faire un assaut d'entraînement avec eux. Donc, ils font des assauts sur le ferry de Groix pour s'entraîner aux assauts. Et donc, on devait vivre un assaut pour aller vraiment ressentir comment le bateau va aller choquer le ferry et tout ça. Et malheureusement, ça n'a jamais pu se faire à cause du Covid. Mais ça, j'aurais adoré.
Je pense que t'aurais pris 2 jours, genre.
Ah oui.
Et c'est moi.
En tout cas, c'est humainement des gens qui sont... Et puis en termes d'intelligence aussi, c'est vraiment des gens que j'ai appris à connaître parce que, et que je respecte vraiment beaucoup, encore beaucoup plus qu'avant, parce que c'est des gens qui ont une décision de vie ou de mort en quelques secondes, tant pour eux-mêmes que pour leurs copains ou que pour l'adversaire aussi, ou voir les otages. Donc c'est des gens qui sont habitués à être très 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 réfléchis. Moi, je suis impressionné quand tu leur poses une question du fait qu'ils ne répondent pas tout de suite, ils réfléchissent d'abord. Et en fait, c'est complètement à l'opposé de l'image que tu as de gros bras qui sont que capables de pousser de la fonte. Mais non, c'est des gens qui sont vraiment brillants. C'est une chance. Là, pour le coup, c'est une chance de bosser avec eux. Quoi.
De pouvoir les côtoyer.
Ouais, je suis super fier de ça.
Ok. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, sur lesquels tu aimerais mettre l'accent plus
Je pense qu'il y a un vrai sujet sur les fonds d'investissement où je souffre... Moi qui suis très cocorico, je suis hyper déçu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais quand tu as lancé hier...
Moi, aujourd'hui, j'ai levé 3,5 millions.
Ouais.
3,5 millions en plusieurs fois. Donc, je m'oblige à le faire avec des gens français. Déjà, il y a quand même l'aspect... Alors déjà, je suis patriotique, comme je l'ai dit, dans l'âme. En plus, maintenant, il y a quand même l'aspect militaire, donc je fais quand même très attention.
Oui.
Et puis, je pense que c'est quand même plus simple de s'entendre. Moi, je respecte beaucoup mes investisseurs parce que sans eux, je n'existerais pas. Et donc, je dois vraiment m'entendre avec eux. Et quand je dis m'entendre, c'est que dans mes comités stratégiques, je ne veux pas imposer ma décision, même si c'est un homme, une voix, que je suis prépondérant, juridiquement parlant. Non, moi, j'exige qu'on ait l'unanimité. Je ne veux pas prendre une décision si on n'est pas tous d'accord. Je pense que c'est hyper important. Et je pense que du coup, culturellement, c'est important d'être avec des Français. Parce que même les anglo-saxons, c'est pas pareil. Donc pour l'instant, je suis comme ça. Et par contre, on est dans la phase la plus difficile du financement de la boîte. C'est-à-dire que je ne peux pas encore aller voir des fonds d'investissement en français.
D'accord.
Ce qu'on appelle les séries A.
Oui.
Où je peux dire, ça y est, moi j'ai mon carnet de commandes, j'ai 15 bateaux. Ça, je peux pas parce que j'ai pas encore ce carnet de commandes-là. Et puis, je t'explique pas le Covid. Hein. Covid, annulation de commandes.
Ouais.
L'année dernière, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Hein, parce que l'année dernière, j'ai fait 600 000 euros de chiffre, mais j'aurais pu faire 1 million. J'ai eu 2 annulations de commandes, dont un qui avait fait un versement.
D'accord.
Donc voilà. Aujourd'hui, pour lever des fonds, bon, évidemment, je suis convaincu que ça va marcher. Je serai pas là. Mais comme je suis passé RIA, je suis en la période la plus difficile. Là, il faudrait que je lève à peu près 3 millions si je voulais être tranquille. Mais je vais pas y arriver, hein, je suis sûr. Si je fais que du franco-français, je pense que je vais pas y arriver. Donc là, je lance un appel au peuple. Mais c'est super difficile parce que financer l'innovation, tu y arrives quand tu es malin et que tu as un bon produit. Le crédit d'impôt recherché est là, tu as l'agence innovation défense, tu as tout ça. Donc tu arrives à l'élever tes 3 millions de demi, tu arrives à convaincre des gens qui ont eu des très très beaux parcours magnifiques. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des investisseurs. J'ai fait une augmentation d'un million avec deux personnes qui ont mis 2 fois 500 000. Ça, c'est topissime.
Tu veux les citer ou non?
Oui, enfin, Didier Chauda, que j'adore, c'est un self-man-man. Il s'est fait tout seul et puis voilà, il a fait un super truc. Puis Didier, c'est un instinctif et il est monté sur le bateau, je savais qu'il investirait. Quoi. Je ne dis pas qu'il se moquait des chiffres, mais parce que c'est quelqu'un qui vit et puis il y a quelque chose qui est passé humainement entre nous en termes de. Voilà, il y a une communication informelle qui s'est établie et puis de la confiance. Voilà, Eric de Turckheim qui a fait fortune dans le conseil en matière première, etc. Et voilà, qui sont des gens que je respecte énormément parce qu'ils ont des parcours totalement différents. Pierre Bastide, qui a fait le plus gros LBO de l'histoire en vendant Convertim des Américains. Bah voilà, c'est des gens, je ne peux qu'apprendre à côté d'eux. Donc moi, je les respecte beaucoup. Ou parce que j'apprends énormément. Parce que quand eux, ils te disent en comité stratégique, Richard, tu ne devrais pas faire ça parce que faut que tu les écoutes parce qu'ils ont vécu autre chose que toi. Quoi. Et dans ma vie antérieure, c'est des choses que les gens n'ont pas compris. Ça. Parenthèse refermée. Donc voilà, c'est la période la plus difficile parce que l'innovation, tu arrives à convaincre des gens. Là, ouais. Hein. Et aujourd'hui, c'est des gens qui ont pris des gros risques hein, chez moi parce qu'ils ont quand même mis entre 500, il y en a qui ont mis même un peu plus que 500 000. Donc si tu veux, c'est des gens qui sont quand même financiers dans l'âme, ils vont partager le risque.
Ouais.
Donc ils estiment que même s'ils y croient, c'est pas eux qui vont les remettre 2 ou 3 millions tout seuls. Je pense qu'ils le feront si d'autres mettent à peu près les mêmes sommes.
D'accord.
Je pense, mais voilà, ça c'est des discussions qu'il faut que je vois avec eux. Mais en tout cas, ça c'est vraiment une difficulté, moi je trouve, qui est très très forte. Alors que là, tu vois, on fait des ventes au Moyen-Orient, je décroche le téléphone, et je pense que des fonds Emirati, Dubaïote, tout ça, c'est bon, je signe.
Américain aussi peut-être?
Ouais, alors je ne vais pas encore sur le marché américain parce que je considère qu'on n'est pas encore assez mûr.
D'accord.
On le sera avec le bateau 100% CIR parce qu'on aura maîtrisé l'ensemble des process. Aujourd'hui, on modifie des bateaux existants, donc j'ai pas envie de me prendre des procès avec des choses où on pourrait discuter de la responsabilité. Ah oui, c'est pas moi, c'est le fournisseur du bateau.
Ouais, d'accord. Ouais.
Je veux pas rentrer là-dedans. Mais le marché américain, pour moi, c'est sûrement le plus gros marché.
Ouais. Voilà. D'ici quelques années.
Ben oui.
Bientôt.
Bientôt, bientôt. Mais c'est vrai que quand tu... En ce moment, donc, je fais mon fameux dossier pour mes investisseurs. Tu te dis, mais c'est pas possible. Le nombre de choses qu'on a pu faire depuis 2016, mais c'est juste fou, quoi. Beneteau, les forces spéciales, vendre déjà 9 bateaux, côtoyer les ministres, les députés. Et ça sera ma dernière boîte.
Ah ouais?
Ouais, je pense, ouais.
Oula, je suis sûre que tu peux avoir une idée à un moment donné.
Non, par contre, il y a un truc que j'adore, c'est accompagner les gens. Ça, j'adore ça. J'adore donner des cours.
Tu donnes des cours dans
là, des là, je ne le fais plus. Mais ouais, j'ai donné pas mal de cours d'innovation, de chef d'entreprise. Ouais, parce que ça, je pense que...
Dans une école ou dans des...
Peu importe.
Ouais.
Ouais, j'ai fait ça dans des écoles, notamment dans mon ancienne école d'ingé. Hein, j'ai donné des cours. Et puis, ouais, ça m'arrive de faire des interventions parce que j'aime beaucoup transmettre. Je suis un homme Bah ouais, on a la chance d'avoir subi plein d'écueils, donc autant les expliquer aux plus jeunes pour qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs.
T'as eu peur pour Sierre? Je sais que là tu disais que tu étais dans une période compliquée, mais Sierre c'est...
J'ai un souvenir d'un mois de juillet, je crame à peu près 100 000 euros par mois, hein, je brûle à peu près 100 000 euros par mois. J'ai un souvenir d'un mois de juillet où des gens étaient en retard pour me payer. Il devait me rester 5000 euros sur le compte. Et on devait être au 10 juillet à peu près. Et je n'avais plus rien. Tu dors pas très bien là.
Ouais.
Et tes salariés ne s'en rendent pas compte. Personne ne s'en rend compte. Donc tu as une solitude du chef d'entreprise, ça j'en parle quand je fais des cours d'entrepreneuriat. Tu as une solitude du chef d'entreprise quand tu es dans ce genre de boîte que peu de gens connaissent. Donc certes, des fois, quand on gagne bien sa vie, on dit « Ah ouais, lui, ah, t'as vu, une espèce de forme de jalousie », mais je pense que les gens ne se rendent juste pas compte de nos vies d'entrepreneurs de petites boîtes, là, comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui, des fois, peut être assez dur à vivre, et il faut avoir un mental très très fort et une famille aussi super soudée, quoi. Parce que quelque chose que je dis aussi pour les gens qui veulent créer des boîtes, je dis d'abord, est-ce que dans ton couple, ça va ? Et est-ce que même pas ça, est-ce que ça va, c'est est-ce que ça va très très bien, ouais. Parce que si ça va pas très bien dans ta vie privée, c'est pas la peine de monter une boîte, parce que tu peux mettre en péril ton foyer. Donc si t'as pas quelqu'un pour te soutenir à la maison pour monter ta boîte, ça peut vraiment ne pas du tout fonctionner, et là tu peux tout casser, quoi. Tu peux casser les deux en même temps, et là t'as plus rien, hein. Tu te retrouveras sur le pont, hein. Tu te retrouveras sous les ponts. Donc ouais, c'est quelque chose qui, la vie d'entrepreneur est pas simple, mais elle est passionnante, hein. Voilà, donc j'espère que c'est pas trop le moment lugubre de l'interview.
Non, pas du mais, tout. Non, faut le savoir, parce que d'ailleurs, c'est la dernière question de l'interview. Je demande si t'as des conseils et des trucs comme ça. Donc, tu as précédé ma question.
Le conseil pour moi, c'est ne jamais rester seul. Moi, je me nourris des autres. Voilà. Et je le fais ouvertement. Et je suis hyper franc, je ne cache rien. Pour moi, t'écoutes ton marché. Tu te focalises pas sur la technique, t'écoutes ton marché, parce que c'est ton marché qui a raison, c'est pas toi techniquement, c'est ton marché qui a raison, parce que si t'as pas de marché, t'as pas de clients, t'as pas de chiffre d'affaires, t'as pas d'argent et tu payes personne.
CQFD.
CQFD, ouais, ça c'est dur à expliquer dans ta boîte. Voilà, moi j'ai beaucoup de gens qui sont tellement bons dans leur domaine que voilà, ils sont amoureux de la technique, et leur faire comprendre que. Voilà. Donc t'écoutes ton marché. T'es d'une pugnacité folle. et t'écoutes tes aînés qui ont
des choses à t'apprendre.
Et bah, comme je dis à mes gamins, t'apprends jusqu'au dernier souffle de ta vie, quoi. Même la dernière minute de ta vie, t'apprends encore un truc, quoi. C'est que voilà. Et tu t'apprends tous les jours. Donc je me nourris des autres et je le fais ouvertement et je suis hyper transparent et hyper. Ouais, je pense que c'est des valeurs-là qui sont super importantes.
Alors t'es jeune, t'as 50 ans. Est-ce que tu penses déjà à la transmission, parce que tu parles de tes enfants? Est-ce que
alors,
tu sens
je pense, j'espère que je ne froisserai personne, mais je pense qu'un bon chef d'entreprise ne doit pas trop mettre d'émotion, d'affectif dans sa boîte.
Ah oui, t'en parlais avec ta femme pour Passion des
Jardins. Ouais, ouais, elle, j'ai eu beaucoup de mal à lui faire vendre sa boîte parce qu'elle était tellement amoureuse, c'était son bébé. Alors, j'adore Sierre, évidemment. Hein. Ouais. Faut pas me faire dire ce qu'on ne va pas finir. Mais si à un moment je sens que j'ai une offre de reprise de la boîte, qui a un vrai sens. Par contre, je voudrais que la boîte, elle vive.
Hein. Oui.
Mais je veux dire, j'y serais pas attaché. Je connais mon plafond de verre personnel. Je sais où est-ce que je serais pas bon pour développer la boîte. Et si je trouve quelqu'un qui veut le faire à ma place, mais j'ai aucun état d'âme.
Ok.
J'ai aucun état d'âme. Je serais super fier de ce que j'ai fait. Et je pense que ça, c'est la plus belle des richesses, c'est d'être super fier de ce qu'on a fait et de pas avoir de regrets. Je pense qu'il y a rien de pire pour quelqu'un que d'avoir des regrets.
Ouais.
Et j'ai aucun regret d'avoir osé faire le pas de sponsoriser un bateau pour la route du Rhum. Aucun regret d'avoir créé Sierre, même si Sierre, je vais être assez cash, hein. Si je trouve pas d'argent, je pense que dans un an et demi, on n'est plus là pour en parler.
D'accord.
Hein, ouais. Parce que je suis très ambitieux, donc j'ai besoin d'argent. Je pourrais réduire la voilure, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de revenir à deux personnes et puis d'aller... décrocher des contrats à 3 francs 6 sous pour faire voler un, ça ne m'intéresse pas. Je veux vivre un truc passionné, quoi. Je veux pas vivre un truc qui va me faire manger, ça m'intéresse pas. Je veux vivre un truc de passionné, hein, c'est ça qui est important. Donc ouais, si je trouve pas d'argent d'ici un an et demi, je pense qu'il n'y a plus de Sierre, hein, très factuellement. Mais ça, c'est pas grave, parce que je l'ai vécu chaque année chez Sierre, ça.
Ouais.
Chaque année. Et je pense que dans 3 ans, quand j'aurai cramé les 3 ou 5 millions, peut-être que je pense que j'aurai plus ce discours-là parce qu'on sera établi.
Oui.
Et là, du coup, le carnet de commandes sera là. Et
ça roulera.
Et ça roulera. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça qu'il ne faut rien regretter. Donc, je ne regrette pas d'avoir créé Assir, sûrement pas. Et même si ça s'arrêtait demain parce que je n'ai pas trouvé d'argent, bah, je ne le regretterai pas. Par contre, j'ai fait attention, en bon gestionnaire de père de famille, à me garder quand même le minimum pour pouvoir rebondir, parce que j'ai pas de chômage, évidemment, ma femme bosse plus, et en fait ce serait, j'aurais un nouveau job derrière Sierre si Sierre s'écrasait.
Voilà. D'accord.
Si je devais mettre la clé sous la porte, là je serais obligé de retravailler, ouais, ça c'est sûr. Alors par contre, tu vois, moi je suis pas du tout un homme de pouvoir, j'ai déjà négocié,
c'est ce que j'allais, ouais.
J'ai déjà négocié dans mon pacte d'actionnaires avec mes investisseurs actuels. Aujourd'hui, ça va en faire hurler certains, mais j'ai même plus la minorité de blocage. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Parce que ça, c'est très franchouillard, hein, de dire oh là, faut que t'aies 50% de ta boîte, oh là là, ou au moins 35% pour voilà, la minorité de blocage. Là. Mais à quoi ça sert, la minorité de blocage, si tu bloques un truc où t'as plus les moyens de rien faire, quoi que ce soit? Ça sert à rien. Ça sert à que dalle. C'est de l'égo, c'est, pour moi, c'est de l'égocentrisme, ça. Donc moi, avoir 10% de ma boîte, mais ça me gêne pas du tout. Par contre, j'ai dans un contrat à côté que si la boîte se vend à temps ou à temps ou à temps, ah bah ouais, par contre, je toucherai le pactole parce que j'aurai le juste retour de ma sueur
de travail,
et de tout le risque que j'ai pris.
Ouais.
Et là, je pourrais potentiellement être riche. Aujourd'hui, je ne suis pas riche, je suis juste riche de mes rêves et de me lever tous les matins en me disant j'ai juste une chance inouïe de faire un boulot comme ça.
De développer des beaux bateaux, des beaux bateaux volants.
Et moi, je suis super fier de faire rêver la planète, quoi. Je suis super fier de recevoir des mails de partout où on me demande le prix de mon bateau, tout ça. Ah, c'est trop cher, mais c'est pas grave, j'ai fait rêver quelqu'un.
C'est ça. Et il s'est dit que peut-être, mais quand Sierre sera bien établi, ça sera possible. On pourra...
Et il y a un truc que je déteste, voilà, moi je suis hyper écologique parce que bah, le métier de ma femme, c'est la nature. Moi, je suis très convaincu que le green, c'est super important sur la mer et que l'économie de mes bateaux, économiser 30%, entre 30 et 50% de carburant, l'écologie, elle commence là, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui le comprennent. Mais par contre, l'extrémisme, et je pèse mes mots, hein, l'extrémisme écologique, quand on entend la maire de Poitiers qui dit que les rêves de gamins, l'aérien, c'est tout. Et quand on sait que cette fameuse association à qui elle coupe les vivres, elle fait voler des handicapés.
Ouais, des enfants handicapés.
Non, mais attends, mais on marche sur la tête. Donc cet extrémisme-là de l'écologie, je pense que l'écologie doit se construire. Non, mais on n'a rien inventé. Au Moyen-Âge, ils triaient déjà. Ils triaient déjà, hein, au Moyen-Âge. Ils triaient le bois, ils triaient les déchets végétaux, etc. On n'a rien inventé, quoi. C'est juste qu'il y a eu des excès de... Dans les années 80, on triait déjà le verre. Hein.
Oui.
Donc qu'on arrête de nous faire la morale là-dessus et qu'on soit pragmatique dans les décisions.
Ok, bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour.
Ouais,
bah, ouais, aussi les petits conseils, on a fait le tour aussi. Je pense qu'être bien entouré, c'est ce que tu as dit.
Ouais, et puis après, bon, il faut mesurer ses risques, évidemment, mais il faut prendre une part de risque.
T'as commencé avec, si je peux me permettre, t'as commencé à combien avec Sierre? L'argent, c'est toi qui as mis l'argent au départ ou
Oui, bah en fait, bon alors j'ai quand même eu la chance de bien réussir ma vie.
Oui.
Et j'ai emprunté pour mettre dans Sierre.
D'accord.
J'ai emprunté plus de 100 000 euros.
Ok, ouais.
À titre perso pour continuer, parce que ça c'est un truc qui est vachement important pour les investisseurs. Il faut que tu montres toi-même
que toi
que tu
t'as
y
pris.
Crois. Donc on a eu la chance de vendre la boîte de ma femme, j'ai eu la chance de bien réussir ma vie, je suis un investisseur aussi, donc je fais des placements à côté, voilà. Donc j'ai quasiment tout mis dans Sierre, hein. J'ai gardé un bas de laine au cas où, mais
oui.
Au total, avec les emprunts que j'ai faits, j'ai mis presque 500 000 euros.
Ah oui.
Ouais. Donc j'ai levé 3 millions à côté, moi j'ai mis à peu près 500 000.
Oui.
Mais je peux tout perdre, hein. Hein, typiquement, je peux tout perdre. Mais ça, c'est pas très grave, entre guillemets. Hein, j'ai vécu mon rêve. Je le vis à 100% et je compte bien récupérer cet argent-là.
Oui. Même un peu plus, ça serait bien. Ça, même... ça...
Oui, mais je cours pas après l'argent parce que je pense que la famille et prendre le temps de vivre, c'est super important. Et ça, c'est quelque chose que la mer te permet. Quoi.
À part la mer, à part l'air. Qu'est-ce que tu fais d'autres choses? Est-ce que tu as d'autres passions ou bon, c'est déjà, ça prend déjà bien tout ton temps?
J'adore échanger, j'adore les très bons rhums.
D'accord. Non mais on parle toujours d'alcool chez Slice. Tous les épisodes, on parle apéro, donc c'est un peu,
si tu
ne m'avais pas parlé d'alcool, j'aurais vraiment été déçue.
Je suis super content parce que ici, là j'habite à Aragon, puis on fait des sorties...
alcoolisées.
Non, pas du tout. Non. On est en train de créer, c'est même pas un club, quoi, c'est un petit groupe de copains là. On fait du longe côte mais un peu sportif, été comme hiver, hein. Moi qui aime pas l'eau froide, voilà. Mais on met la combi et ben j'ai fait découvrir un petit rhum et maintenant on fait le petit rhum apéro juste après.
Ah, très bien pour se réchauffer, pour tout se ça réchauffer, bien évidemment, voilà. donc dégustation de rhum.
Non mais voilà, moi j'adore tout, hein, donc j'adore découvrir, hein. J'adore me balader dans un beau jardin. Du temps où on pouvait faire des restos, j'adorais me faire des super restos un peu gastronomiques. C'est alors ça. Ma femme bossait là-dedans, donc c'était génial. De découvrir de la gastronomie, de découvrir des beaux paysages. J'adore voyager. Vous pouvez voyager. Quand j'ai eu la chance d'aller à Sydney, j'ai adoré ça. Avec ma femme, on a pris un jour vol sec pour aller en Thaïlande. On ne savait pas où on allait. Hein. Pouf, sac à dos pendant 3 semaines. Voilà, j'adore découvrir. Donc, je suis un passionné de tout.
Bah c'est, je trouve que c'est un joli mot de la fin. Écoute, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps.
Avec plaisir.
D'avoir parlé de ton parcours et de CIR. Je te souhaite le meilleur. Je souhaite que les forces spéciales ne cassent pas ton bateau dans 2 semaines.
On l'a déjà cassé, nous.
Ah, oh, bah c'est bon, alors. Faites-vous plaisir, les gars.
C'est ça.
Et puis, bah, écoute, je te dis à bientôt. Plein de bonnes choses. Et puis, merci encore.
Merci, Marjolaine.
Bye bye.
Bye.
Merci encore à Richard de m'avoir reçu pour enregistrer ce nouveau numéro de Slice. Voilà qui conclut notre petite escapade bretonne. Il y en aura d'autres bientôt, j'espère. Je vous retrouve sur le site de Slice si vous souhaitez en savoir plus sur l'épisode d'aujourd'hui. J'embrasse Robert et Christophe qui ont participé à ma petite balade bretonne et dont les épisodes sont disponibles sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode de Slice et d'ici là, portez-vous bien.